Micro-ondes.
Une émission qui vous tient à contre-courant.
Tous les premiers dimanches du mois.
On vous parle de sujets brûlants.
Mais c'est pas de réchauffer.
Une émission qui s'attaque au racisme,
aux frontières
et aux injustices sociales. À l'intérieur, pas de la lutte, que de la lutte.
De midi à 14h.
Sur News FM 101.2.
Bonjour et bienvenue sur Micro-ondes, l'émission qui vous tient à contre-courant sur News FM 101.2. Aujourd'hui, on sera avec vous de 12h à 15h pour, comme toujours, informer, comprendre et lutter contre les injustices sociales, contre les frontières et contre le racisme, et donner la parole à celles et ceux qui les subissent et leur soutien. Si vous aussi vous voulez prendre la parole et réagir ou nous faire passer une info, n'hésitez pas à nous appeler au 04 56 14 23 54 ou à nous écrire sur le Facebook de Micro-ondes News FM. Aujourd'hui, pour nous, c'est une émission un peu spéciale car c'est la dernière de l'année. On espère donc vous retrouver à la rentrée sur News FM, mais d'ici là, nous, on a bien l'intention de continuer pendant l'été nos reportages et interviews. Vous pourrez les retrouver ainsi que tous nos podcasts sur le site www.le-tami.info. Mais on ne se laisse pas abattre et pour fêter cette dernière émission et comme on commence à devenir expert en marathon, on pousse les cadres et les murs pour faire une émission spéciale de 3 heures. Il nous fallait bien ça pour parler de tous les sujets de lutte qui nous touchent en ce moment. Dans cette émission, nous allons donc poursuivre le débat entamé lors de notre émission du 1er mai que vous avez peut-être pu écouter. Donc un débat sur la convergence des luttes avec de très nombreux invités dont certains sont déjà là sur le plateau. Mais avant de passer à ce gros morceau de l'émission, on va faire un rapide tour des luttes en cours et on va essayer de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Dans l'actu des luttes, Yvon, tu vas nous faire un rapide retour sur plusieurs infos, la lutte de Maître Ripert, mais aussi des nouvelles du conseil départemental qui a encore une grande idée pour défendre les droits de l'enfance. Et enfin, tu vas nous parler du MEDEF. Puis nous écouterons le témoignage de personnes hébergées en centre d'hébergement hivernal. Et enfin, Kenja va nous présenter son invité, qui reviendra, si je ne me trompe pas, sur la situation à Mayotte. Mais on commence donc avec toi, Yvon. Quelles sont les nouvelles des luttes sur Grenoble ?
Bonjour à toutes et tous. On a aujourd'hui à Grenoble une actualité extrêmement chargée, notamment par la lutte contre la loi travail, mais pas seulement. Donc on a retenu au milieu de tout ça trois brèves. Et d'abord, peut-être la plus emblématique, à mon sens, hein, parce qu'elle révèle les dérives du pouvoir. Je veux parler de Bernard Ripert. C'est un avocat pénaliste grenoblois, dont certains ont pu entendre parler par la presse déjà. Et il est connu pour son respect de la justice et des droits de la défense, qui sont pour lui une exigence absolue, même si on pourrait penser que ça devrait s'appliquer à tous les avocats. Cette exigence l'a conduit à s'occuper d'affaires très difficiles, notamment politiques, avec la défense d'Action Directe, notamment de Carlos, etc. Des affaires criminelles comme celle d'Echirol, avec l'assassinat de Kevin et Sofia, dont on a essayé de le retirer de la défense. Et cette intransigeance a déplu à certains magistrats, au point de lancer contre lui des procédures disciplinaires pour l'empêcher dorénavant de plaider. Ils ont même trouvé une psychiatre qui, sous la pression et avec un dossier fabriqué, a jugé qu'on pouvait l'interner au niveau psychiatrique, d'où il a été heureusement relâché par d'autres psychiatres. Et là, on est comme au bon temps de la Russie stalinienne, comme vous voyez. Ce règlement de compte, tout laisse à croire qu'il a le soutien du ministre de la Justice, dont le rôle serait pourtant plutôt de sanctionner de tels comportements de la part d'un magistrat. Jeudi dernier, s'ouvrait la énième procédure en vue de radier Bernard Ripert du barreau à Grenoble. La salle d'audience était pleine à craquer, elle avait été choisie toute petite, donc même les avocats en robe là, qui venaient le défendre et le soutenir n'ont pas pu tous rentrer, et on était nombreux, bien sûr, parce qu'on était nombreux même à ce micro, à venir le soutenir. Quant au public, il est resté soit à la porte, soit bloqué par la police, même à l'extérieur du tribunal. Alors après la répression des manifs, l'état d'urgence a restreint les droits. C'est aujourd'hui au tour de la justice où on sanctionne carrément les avocats debout et le pouvoir s'attaque sans vergogne et c'est très grave. Et aux dernières nouvelles, Bernard Ripert et ses défenseurs, après une journée complète de plaidoirie jeudi, ont demandé le report pour la suite du procès. Le tribunal a choisi comme nouvelle date le jeudi 9 juin, précisément le jour où Bernard Ripert était indisponible car il devait se faire opérer. Néanmoins, bon, il a différé son opération et on demande à tous de venir le 9 janvier au matin soutenir Bernard Ripert, harcelé par le pouvoir pour des raisons de toute évidence politique. Donc vous voyez tous et toute la dérive du pouvoir actuellement qui cherche à museler une défense complète, y compris sur le plan politique. Donc voilà. Voilà pour Bernard Ripert. Oui, une deuxième brève. Et puis je rappelle que vous pouvez appeler au 04 56 14 23 54 si vous avez des compléments d'information ou, je sais pas, quelle que soit la chose que vous avez à dire. La deuxième chose, ça s'est passé également cette semaine, c'est le conseil départemental qui, depuis déjà un mois, a pris une décision. C'est une majorité de droite depuis un an, comme vous savez tous. Et cette décision, ça consiste à supprimer les aides financières qui sont pourtant minimes par rapport à des gens qui n'ont aucune ressource et qui estiment qu'ils sont étrangers, qu'ils n'ont pas le droit de les avoir. Et donc, il continue dans sa politique antisociale. Il faut se rappeler qu'il a supprimé, à peine arrivé, je crois que c'est 1,9 million sur un budget quand même d'1,5 milliard, 1,9 million uniquement sur le social. Ça
représente à peu près 11,5%, je crois, du budget total, de baisse du budget social de base. Il y a 11,5%
mais,
de baisse.
Mais par rapport au budget général, ça représente même pas 1 pour 1,000.
Ah
quoi.
Oui, c'est rien. Ouais.
C'est dingue. Et aujourd'hui, bon, on s'attaque aux secours d'urgence, on s'attaque aux plus pauvres, des secours déjà dérisoires, souvent de l'ordre de 200 euros par mois, et quand ces familles n'ont rien d'autre. Hein. Donc le CDI considère qu'ils n'ont pas droit à une aide financière, mais qu'ils n'ont qu'à se retourner vers les associations pour avoir une aide alimentaire. Or, les associations, elles n'en peuvent plus. Donc, décision scandaleuse, nombreuses manifestations, des rassemblements, encore cette semaine, où on est intervenu auprès du CDI. Tout ça, c'est en plus non seulement inhumain, mais illégal. Et donc, il y a une procédure qui est tentée en justice des élus. Je suis troublé. Complètement scandaleux. Enfin, tout ça, vous en avez peut-être entendu parler par les médias, mais on tenait aussi à compléter leur info. Vous me dites si je dépasse trop, hein, ça va. Dernière chose, je voudrais quand même terminer par quelque chose qui nous réjouit particulièrement. Dans l'Isère, on connaît bien Pierre Gattaz, parce qu'il est le patron d'une usine, l'usine Radiale, à Vorep. Accessoirement, vous avez peut-être entendu parler de ce monsieur qui est aussi le patron des patrons, c'est-à-dire du MEDEF. Le MEDEF qui en ce moment est très gourmand, qui n'en a jamais assez dans le grignotage de nos acquis, de nos droits, pour garantir leurs profits. Pourtant, il n'a guère de raison de se plaindre, y compris à titre personnel, puisque, comme beaucoup de patrons, il a touché des subventions l'an dernier, 40 milliards, on appelle ça le CICE. Aujourd'hui, le projet de loi de travail qu'il a largement inspiré, hein, qui sert surtout à précariser pour augmenter aussi les profits. Et personnellement, l'entreprise Radiale, sur 25 millions d'euros de profit l'an dernier, il n'a payé que 200 1000 d'impôts, alors 1%. Alors je demande à tout le monde si vous payez 1% d'impôts. Hein. En plus, quand les salariés protestent pour tout ça, par la grève, ils se font traiter de terroristes. Alors la chose réjouissante, j'y viens, c'est le blocage mardi dernier de son usine par le comité On bloque tout, composé de syndicalistes, d'étudiants, de membres de Nuit debout, de gens d'individuels, etc. Ben, Nuit debout, c'en est déjà. Et aussi, la dépose de son compteur électrique dans sa belle maison du midi, compteur qui trône maintenant dans un local syndical, comme un trophée. Bon, c'est peut-être pas grand-chose, mais ça fait du bien, et nous, ça nous fait rigoler. Et on applaudit au passage tous ceux qui ont mené ces actions. Merci.
Je ne sais pas, je voudrais revenir sur le conseil départemental,
oui.
Juste pour dire qu'il y a eu une action assez belle vendredi dernier.
Mmh.
Vendredi matin, au conseil, enfin, il y avait un forum ouvert organisé par le conseil départemental qui invitait toutes les assistantes sociales à discuter de points avec des usagers. Bon, bref, c'était toute une grande messe. Ils ont loué pour ça une grosse salle au Novotel, donc je pense que ça leur a coûté au moins 3 000 au World Trade Center. Donc, rien que la location de la salle pour la journée, elle a dû coûter au moins 3 000 €. À part ça, il n'y a pas d'argent dans le social. Et les gens, nous on était là, donc on a vu les gens qui se sont mobilisés à cette action, qui correspond, il y avait plein d'associations, hein, dedans il y avait les associations de la CISEM, il y avait des individus, il y avait le collectif Patate Chaude d'hébergement logement, enfin disons plein. Ils n'étaient pas si nombreux que ça, mais il n'y avait pas besoin d'être trop nombreux. Ils ont quand même suffisamment fait la pression et ils ont réussi à entrer alors qu'ils étaient bloqués à l'entrée, hein, sur un normalement forum ouvert. Et c'est les assistantes sociales à l'intérieur, et ça les journalistes ne l'ont pas relayé, c'est les assistantes sociales à l'intérieur qui à un moment donné ont voulu que ces personnes rentrent. Et il y a eu une prise de parole devant, je ne sais pas, à peu près 150 personnes, 150 AS et quelques habitants, et notamment sur la difficulté des travailleurs sociaux aujourd'hui à se mobiliser, et a été abordée la question du rapport à l'autorité, puisqu'il y a encore 15 ans, dans le travail social, il y avait des militants, et beaucoup plus de syndiqués, il y en a de moins en moins. Donc ça faisait partie des points abordés, et on espère que les assistantes sociales, alors qu'elles sont vraiment dans une situation très très difficile aujourd'hui, parce que
très contradictoire.
Et de toute façon jamais aussi difficile que la situation vécue par les familles, donc ça faut toujours se le rappeler, et j'espère qu'en se rappelant ça, elles trouveront la force de s'unir, d'aller boire des verres avec leurs collègues pour discuter de leurs conditions de travail, de syndiquer, de faire tout ce qui est en leur pouvoir, parce qu'il est encore en leur pouvoir, pour dénoncer cet avenant et la suppression de ce secours d'urgence. Voilà, on compte sur elles aussi.
Oui, y compris au téléphone si elles veulent appeler.
Oui, elles peuvent, oui.
Voilà. Et on peut rappeler aussi que, comme je le disais tout à l'heure, cette action n'a pas été la première depuis qu'ils ont réduit les budgets tous azimuts dans le social. Il y a eu beaucoup d'actions, notamment celles qui ont été coordonnées par la CISEM, coordination iséroise des qui peut m'aider des ou enfin qui coordonne
le soutien tout ce qui solidarité aux étrangers migrants.
Merci. Voilà.
Et donc après le conseil départemental qui supprime des aides, nous allons parler de l'hébergement, un autre droit qui est bien souvent bafoué et donc une autre lutte qui va avec. Le reportage qu'on va vous faire écouter est en fait plutôt un témoignage. Le témoignage de personnes qui ont été hébergées en centre d'hébergement pendant la trêve hivernale à Domaine. Puis, à la fin de la trêve hivernale, le 31 mars, qui ont été relogées en hôtel en attendant qu'on leur propose un hébergement plus pérenne. Ce reportage a été réalisé fin avril, alors que ces personnes étaient encore en hôtel. Elles ont été relogées depuis en appartement. Elles ont donc subi 2 déménagements en 2 mois aux 4 coins de l'agglomération avec des enfants scolarisés. D'autres, à partir du 31 mars, ont été ballottés de centre d'hébergement en centre d'hébergement. Pour elles, et surtout pour cette année, l'histoire s'est à peu près bien finie, puisque un grand nombre de personnes hébergées, cet hiver, n'ont pas été remises à la rue. C'est ce qui arrivait tous les hivers précédents. Au 31 mars, 200 personnes se retrouvaient à la rue. Grâce aux luttes des personnes hébergées et de leur soutien, cette année, l'hébergement, qui est un droit inaliénable et une liberté fondamentale, semble donc avoir été partiellement obtenu. Mais cette victoire laisse un goût amer. Le goût amer de toutes les personnes qui sont restées sur le carreau et qui n'ont toujours pas d'hébergement, soit parce qu'elles ont été expulsées des centres d'hébergement ou de leur appartement à la fin de la trêve, soit parce qu'elles n'ont jamais été prises en considération par les dispositifs d'hébergement. Le goût amer des multiples humiliations et pressions qu'il faut subir pour accéder à ses droits. Arrestation de personnes dans les centres d'hébergement, dont certaines ont été expulsées du territoire français. Stratégie de division, chantage à l'accompagnement social, proposition de solutions inadaptées, information délivrée au jour le jour. Et je vais vous laisser donc écouter ce témoignage pour avoir une meilleure idée de tout ça.
Quand nous sommes arrivés, je On a fait la demande d'asile et la relève nous a logés. Après, nous sommes allés au CADA. Quand on a défendu notre dossier à l'OFPRA, le dossier a été rejeté. Et on a fait le recours à la CNDA. Et là aussi, ça a été rejeté directement. Le CADA ne pouvait pas nous héberger. Il nous a mis dehors. On s'est retrouvés dans la rue. On dormait par-ci, par-là. Et les amis nous accueillaient. Peut-être vous dormez la nuit, mais à 8 heures, vous devrez sortir, balader toute la journée et rentrer encore le soir, dormir. C'était comme ça. Et puis, on appelait toujours les 115 pour qu'on puisse trouver une solution. On continuait toujours à appeler les 115 et les 115 nous a donné maintenant, nous a dit d'aller à Domaine. Et nous sommes arrivés à Domaine. Là, on nous a bien accueillis. On était contents parce qu'à Domaine, on ne nous disait pas de nous en aller pendant la journée. Parce qu'on pouvait rester là-bas toute la journée, on pouvait cuisiner. Sauf qu'on était très nombreux avec un seul réchaud qui sautait tout le temps. Et il y avait vraiment... on s'embrouillait dans la cuisine. C'était un peu compliqué dans ce sens-là. Les chambres, en tout cas, c'était dur. Ce sont des chambres où il y a les lits de camp, si vous avez une idée, les lits de scouts, sans matelas. Il n'y avait pas de matelas, mais il y avait des couvertures. Mais même si vous mettez des couvertures dans un lit de camp, il faut voir, nous on a fait au moins un mois, on souffrait des côtes. Parce qu'on était maintenant habitués et il y avait une dame de bonne foi qui est venue avec des matelas. Et elle nous a donné des matelas. Sinon, c'est pire. On dormait comme des prisonniers là-bas. Il n'y a pas de matelas. S'il y a des matelas, peut-être il y avait deux chambres ou trois. Mais nous, on n'en avait pas. On n'en avait pas. C'est ça. C'est dur de dormir comme ça, comme un prisonnier. Une chambre, vous êtes mari, femme et quatre enfants, par exemple. Dans une même chambre, c'est ça. Trouver les gens qui nous encadraient, qui ne nous considéraient pas comme des adultes, c'est ça, dans ce sens-là. On nous voyait comme des petits enfants, là, comme les gens de l'école primaire, qu'on pouvait engueuler. On n'avait pas le droit de dire ce qu'on veut, c'est ça. Et même si on est dérangé, on doit supporter. Et on supportait tout ça parce que la seule chose qui était importante, c'était parce qu'on était à l'abri. C'est ça, c'est ce qui nous importait. C'est, on supportait ça. En tout cas, on était toujours sous-informés. On ne savait rien. C'est vrai qu'on savait le 31, on va fermer le centre, mais on nous faisait signer des formulaires pour demander un autre logement après le 31. C'est ce qu'on espérait quand même, on savait qu'on faisait tout pour nous encadrer encore. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas, c'est comme si nous étions maintenant livrés. Nous devrions maintenant rentrer dans la rue. Heureusement, il y avait des associations qui nous soutenaient, qui nous donnaient le moral, du courage. C'est peut-être pour ça qu'on est relogé dans les hôtels. Mais sinon, on devrait se retrouver encore dans la rue. C'est ça. Moi, je ne trouve pas ça normal. Quelqu'un qui n'a pas besoin de dormir dans la rue, mais il est obligé d'y rester là-bas. On nous a dit de nous en aller. La date limite, c'était le 31 mars. Mais du coup, le 30, le chef est venu nous dire qu'on a un peu prolongé. On a un peu prolongé pour deux, trois semaines, mais il n'y avait pas une date limite. On était toujours là. Mais du coup, on était surpris. Le 6 avril, 6 jours après, la police est venue ramasser certaines personnes. Et ils sont partis au centre de rétention à Lyon. On ne savait pas pourquoi. On ne savait pas pourquoi. Et puis, on a eu peur. On ne comprenait pas ce qu'il s'agissait. Qu'est-ce qu'on a fait du mal? Est-ce qu'on a considéré ces gens comme des criminels?
Après l'arrestation, c'était un mercredi. Après le vendredi, le monsieur, il est passé. Non, c'est lundi lundi vers 19h, le monsieur, il a passé pour informer les gens que demain matin, demain 9h, tout le monde dehors. Donc ça ne peut pas se passer comme ça. Faut que, même si tu es un locataire chez toi, il y a les garanties aussi. Tu peux prévenir quelqu'un une semaine ou bien deux semaines avant. Un bon matin, bien une soir comme ça, 19h, tu viens. Dis, demain matin, je vais fermer la maison. Je ne sais pas si c'est en France, ça passe comme ça, mais je ne pense pas, quoi. Faut prévenir d'abord. Avant une semaine ou bien trois jours, quatre jours. Bon, c'est ça. C'était passé comme ça le matin. Le lundi et le mardi, vers 9h, il était là déjà. Pour dire aux gens, donc je n'ai pas de solution pour vous. Donc, grâce à l'association, si ce n'était pas ça, je ne sais pas quoi.
Le mardi, alors, c'était le 12, je crois.
Oui.
C'était le 12, le mardi. Oui. Et pourtant, le 30 mars, il disait qu'on va rester pendant trois semaines. Comment le 12 déjà, vous venez et vous dites que vous devez partir?
Ils ont proposé tout le monde d'aller à la hôtel.
Au début, c'était pour trois jours. Et après, on ajoute un jour. On ne sait pas, on n'a pas la date fixe. On est comme ça, on vit comme quelqu'un qui est à l'arrêt, là, qui ne sait pas à quelle heure le bus va venir. Comme ça. C'était quoi au juste? Parce que ce sont les gens qui demandent de l'abri. Ce sont les gens qui crient au secours. Parce qu'ils ne peuvent pas dormir dehors comme des animaux quand même. Les gens qui vous crient au secours et vous les amenez dans le centre de rétention. Vous savez ce que ça fait? Parce que ces gens-là, ils paraîtraient, parce que j'ai appris, il y avait des gens qui étaient malades, que la maladie s'est aggravée. La situation pareille, on ne sait pas si c'est la loi d'ici de tuer les gens à petit feu comme ça, les gens qui veulent survivre, les gens qui sont venus ici, qui ont choisi la France comme là où on peut vivre, parce que la vie est très chère. Quand quelqu'un quitte son pays pour venir chez vous, quand quelqu'un abandonne tout pour venir chez vous, pour s'abriter chez vous, pour crier au secours chez vous. Mais malheureusement, le secours n'est pas ce qu'on croyait. C'est comme si on est maintenant trop maltraité, on ne sait quoi faire parce que quelqu'un peut mourir. Quelqu'un peut mourir du coup comme ça. Parce que quand on est malade, quand on pique une crise, on peut partir comme ça avec des situations pareilles. Ce sont des situations qui aggravent la situation. Parce que ce sont les gens qui c'est vrai, c'est une charge, mais ce sont les gens qui ne veulent pas être une charge. Ils peuvent travailler et gagner de l'argent et payer même le loyer, faire tout. Ce sont les gens qui sont freinés comme ça. On ne sait pas pourquoi. Et on ne sait pas où aller, mais la crise est en tout cas. Nous sommes désolés.
Les hôtels, ça ne passe pas bien. Par exemple, tu es marié, tu as les enfants, tu as ton mari aussi. Tu n'as pas là où tu peux préparer tout ça. Ça ne passe pas bien. Ça ne passe pas bien. Tu n'as pas le droit de préparer et les enfants et le mari. Tu vas faire comment?
C'est qu'on vit dans des conditions très compliquées, parce que dans l'hôtel, il n'y a que le micro-ondes et le frigo. Comment cuisiner? Et nous, on n'a personne ici pour aller chez lui faire la cuisine. On est obligé de manger des boîtes comme ça. C'est compliqué en tout cas. La vie est devenue de plus en plus trop dure.
Il n'y a pas les informations, on est au courant de rien. On attend seulement, on est là, on ne sait pas comment ça va se passer.
On n'a plus confiance, c'est comme on était à domaine là. On nous disait, signez ici, on vous cherche des logements, signez là-bas. Mais après tout, on s'est retrouvés, les autres au centre de rétention et les autres dans la rue, comme ça. C'est pourquoi on n'a plus confiance de ce qu'on nous dit. On ne sait pas. À qui croire, on ne sait pas.
On est là, on n'est pas chez nous. Je pense que si tu n'as pas de problèmes chez toi, tu ne peux pas venir souffrir dans le pays de quelqu'un. Si on vient ici, là, parce qu'on a les problèmes. Parce qu'on a les problèmes. Je ne pense pas, si tu n'as pas les problèmes, tu peux rester chez toi. Donc, si on vient ici, on a les problèmes. On ne vient pas ici pour chercher si ce qui... Non, parce qu'on a le problème de mort même. C'est pour cela qu'on est là. On cherche la paix, on cherche de garder seulement notre peau. C'est à cause de ça.
La vie est trop chère. Nous, on a frôlé la mort. Et on est venu ici à France. On a crié au secours à la France, de nous secourir. Mais les secours là qu'on nous a réservés ici, moi je comprends pas, c'est comme si on nous torturait encore de plus en plus. Quand quelqu'un demande au secours, à l'aide, nous sommes des humains. Même un insecte fuit la mort quand il se sent en danger. Il fait quand même quelque chose pour s'échapper. Mais nous, c'est parce que nous ne voulons pas mourir. C'est pourquoi on est là. On veut la vie, on veut vivre. Mais comment vivre ici en France en étant torturé comme ça? Nous voulons être comme tout le monde.
Nous même si on n'a pas les papiers, on a la force. On veut les papiers ici parce que si on a les papiers, on va travailler. On va payer les impôts, on va payer la maison.
On nous donne des papiers, on nous donne les droits de travail. On va travailler, parce qu'au pays, on travaillait. On va travailler ici, on va gagner de l'argent. On va payer les impôts, on va payer les loyers. On ne sera pas une charge. Mais quand on nous bloque, on ne nous donne pas des papiers. On veut seulement nous mettre dans la rue. C'est nous tuer à petit feu. I've been trying to fix all the mess, I've been trying to clean it up. Now I try to pick up the pieces of my broken heart. I don't want to die here alone, and I promise never to fall again.
I'm trying to find out.
Vous êtes toujours sur News FM 101.2 et l'émission Micro-ondes. Vous pouvez nous contacter et n'hésitez pas au téléphone au 04 56 14 23 54 pour réagir ou nous apporter une petite information. Nous venons d'écouter un témoignage de personnes hébergées en centre d'hébergement hivernal, puis en hôtel, puis en appartement, suivi d'un morceau de Soya Kulta qui s'appelle Soul. Comme je vous le disais en introduction, les personnes qui témoignent dans ce reportage ont depuis été donc relogées en appartement. Cependant, malgré cette solution trouvée, l'incertitude règne encore. La pérennité de ces hébergements n'est pas garantie. Quant à l'insalubrité, tant reprochée au campement et au squat, elle est parfois de mise également dans ces appartements. Pour ces personnes, l'hôtel n'a été qu'une étape de plus dans le parcours du combattant pour l'accès à une vie digne. Cependant, pour certains, l'hôtel n'est pas une solution temporaire et ça peut durer plusieurs mois. Pourtant, comme on l'a entendu dans le reportage, cette solution n'est pas adaptée aux familles et pourtant, elle coûte 2 à 3 fois plus cher. On peut donc se demander pourquoi cette politique de l'hébergement en hôtel se maintient. Et je crois que Jeanne, tu avais quelques éléments là-dessus que tu voulais nous apporter.
Ben, oui, après, on peut peut-être aussi déjà réagir au reportage qui est quand même super fort, quoi. Donc, sur les hôtels, on peut y revenir. C'est vrai que ça coûte à peu près 2000 euros par mois. 2000 euros par mois, une chambre d'hôtel dans laquelle vont être entassées 4-5 personnes. Ça fait 9 mètres carrés, il n'y a pas de quoi faire à manger, etc. Il y a des puces. Enfin, bon, bref, le reportage est assez éloquent aussi. Et avec ça, on pourrait avoir 3 F3 d'actifs, en fait. Donc, c'est vrai que... On peut se poser la question de pourquoi. Peut-être qu'ici, du coup, il y a des gens qui ont des idées sur pourquoi. Nous, on a plusieurs hypothèses, mais je laisse réagir déjà les invités par rapport à ça.
Ben, moi, j'aimerais réagir. Donc, c'est Kenja et je salue tous les auditeurs de News FM. J'aimerais réagir, en fait, sur... J'aimerais lancer un grand salut et un grand merci aux camarades qui ont animé l'Assemblée des mal-logés. Parce que, bon, moi, je suis pas depuis très longtemps à Grenoble, mais cette mobilisation, pour moi, a été exemplaire. Elle a commencé dès la fin de l'année dernière. Elle a monté en puissance et elle a surtout amené un élargissement des soutiens. Et on a vu dans cette assemblée des mal logés, non seulement les gens qui étaient en hébergement, mais aussi toutes les situations qui concernent le logement, y compris les gens expulsés par Actis, etc., tout un certain nombre de situations. Et on a vu au fil de la mobilisation un certain nombre d'associations, d'organisations rejoindre l'Assemblée. Et du coup, ça a été pour moi une des portes d'entrée, en fait, sur le mouvement social qui s'est développé autour de la loi El Khomri. Et il y avait déjà cette mobilisation en marche avec l'intention d'aller jusqu'au bout. Et les rencontres avec Piolle à la mairie, avec les autorités, etc., ça a été assez pédagogique avec les acteurs. Surtout, pas de porte-parole, ni d'association ou de gens qui parlent au nom d'eux, mais la présence de tous les acteurs, de tous ces gens qui n'osent pas prendre la parole, qui sont invisibilisés dans les conditions de vie, sont souvent mal connus et même ignorés. Et donc voilà, il y a eu un travail, les camarades du DAL et l'ensemble des acteurs de cette assemblée des mal-logés ont fait vraiment un travail extraordinaire, à mon avis, ben, qui doit continuer, puisque la mobilisation, elle a encore toutes ses raisons d'être. On voit bien que les gens sont dans les certitudes. Voilà, ben, c'était un petit peu mon coup de cœur aujourd'hui, quoi, ma réaction.
Et du coup, par rapport à ces chambres d'hôtel, je ne sais pas si il y avait vraiment besoin de revenir bah, sur l'idée qu'en fait, quand même, on voit bien la logique qui est là avec les personnes qui sont hébergées quand, faire pour qu'il n'y ait pas de conditions d'insertion, en fait, de tout faire pour que Actis se retrouve pas avec des gens dans des apparts. Actis prendrait a pas envie de les virer lui-même, alors du coup il va prendre des hôteliers, c'est des privés qui vont vivre grassement et on va les... C'est aux hôteliers qu'on va dire qu'on va couper les vivres et qu'on va dire mettez les gens à la rue. Donc c'est aussi une déresponsabilisation. Et dans cette vision globale en fait de toutes les questions d'hébergement et de logement, c'est un point qui revient systématiquement, c'est-à-dire que chaque interlocuteur qui est appelé, on va à la mairie, on dit la mairie dit c'est pas moi, on va au conseil départemental, bah c'est pas de ma faute, on va à l'État, bah oui mais bon, et en fait il y a cette dépolitisation et cette déresponsabilisation et on arrive à une politique de gestion ou une gestion des pauvres qui est vraiment fait pour qu'ils restent à leur place et puis qu'ils bougent pas et qui voilà.
Avec un gaspillage de l'argent public.
Avec un vrai gaspillage. Ouais,
un gaspillage de l'argent public et puis du coup ben les raisons de se mobiliser demeurent et voilà il est très probable que les choses aillent vers une radicalisation et des formes d'action qui vont obliger les pouvoirs publics à prendre leurs responsabilités.
Et peut-être on peut rappeler aussi que en même temps qu'il y a ces sommes énormes qui sont dépensées pour un hébergement qui n'est pas adapté, il y a aussi encore tout un tas de gens qui ne sont pas hébergés. Donc c'est des gens qui vont se retrouver à la rue, en mode dormir dans des voitures, dormir dans des tentes, être dépannés à droite à gauche, dormir dans des campements dont on connaît les conditions, on en a déjà parlé ici, dormir dans des squats, quand ils peuvent ouvrir des squats, où là souvent... Eh ben, qu'est-ce que c'est comme réalité ? C'est la police qui vient harceler, une répression de plus en plus forte. Et là, notamment, il y a plusieurs squats sur l'agglomération où il y a de nombreuses familles qui habitent parce que c'est le seul logement qu'elles ont pu trouver, notamment après l'expulsion du grand camp d'Esmonin il y a un an. Et que voilà, ces squats-là sont menacés d'expulsion dans les jours ou semaines qui viennent. Avec, bien sûr, ces personnes-là, aucune solution qui leur est proposée derrière. Et on rappelle, encore une fois... que l'hébergement est un droit en France qui est censé être garanti par la loi.
Et on peut rajouter que dans ces personnes qui sont menacées, on connaît certaines familles, et qu'elles ont déjà subi tout un parcours qui a duré des années de squat, parfois d'hébergement en hôtel, re-squat, réexpulsion, etc. Elles arrivent malgré tout à sortir la tête de l'eau parfois, mais c'est des conditions qui sont vraiment inacceptables.
On peut rappeler simplement que la condition de mal logé sur Grenoble, ça concerne entre 2500 et 3000 personnes. Hein, c'est à garder en mémoire tous ces gens qui traversent l'hiver et qui, après l'hiver, restent encore dans des conditions d'inhumanité.
Et je ne sais pas s'il y a d'autres réactions sur le sujet. Sinon, je crois qu'il y avait un petit rajout, complément d'information par rapport à Maître Ripert, Yvon.
Oui, une fidèle auditrice nous a téléphoné, nous a envoyé un SMS plutôt, pour nous dire qu'on avait oublié quelque chose d'important sur Bernard Ripert, donc l'avocat qui est sanctionné, qui est menacé de sanctions et qui est vraiment harcelé en ce moment par le procureur. Il y a une pétition en ligne, donc vous la trouverez sur www.pétition24.net. Et puis là, il y a un espèce de supérieurat Grenoble. Voilà, donc on vous invite à signer. Ça paraît également important comme moyen de pression. Voilà. Et également, il paraît que j'ai raconté une bêtise tout à l'heure en disant que le procès était reporté au 9 janvier. Il fallait bien comprendre que c'était le 9 juin. Voilà.
Et je crois qu'il y a encore un petit retour sur le sujet d'avant. On est un peu en puzzle, mais on va y arriver. Sur le sujet de l'hébergement.
Oui, c'était pour rappeler qu'en fait, par rapport à l'hébergement, du coup, on le disait juste à l'instant, il y a entre 2500 et 3000 personnes à la rue. C'est juste pour rappeler que dans toute l'agglomération, il y a au moins 3000 logements vides qui appartiennent au public. Et que, comme ça a été dit aussi, le choix budgétaire est complètement pourri parce qu'on choisit de mettre les personnes en chambre d'hôtel et de subventionner des entreprises qui vont très bien, alors que ça pourrait loger tout le monde.
Ben oui, c'était important à rappeler.
Et je vous propose de faire une petite pause musicale avant de poursuivre. On va écouter Zoufris Maracas, Le Peuple à l'œil.
Les flics aux pieds, l'armée aux doigts. Le peuple à l'œil, les flics aux pieds, l'armée aux doigts. Le peuple à l'œil, tu ressembles à un petit roi, gonflé d'orgueil, mais comme tout le monde, tu finiras dans un cercueil, et ce jour-là je ferai la fête. Je serai content si on m'a pas tranché la tête. Si elle est dans pour avoir voulu tenir tête au président, les flics aux pieds, l'armée aux doigts, le peuple à l'œil et les médias, je t'en parle pas. Ils ne sont qu'un seul, ils ne travaillent que pour toi. Ton portefeuille, les flics aux pieds, l'armée aux doigts, le peuple à l'œil. Les flics inquiets, l'armée au pas, les armes aux yeux, encore une guerre pour je ne sais quoi. Les foutus dieux, dieux du pétrole et dieux de l'emploi, ils vont par deux comme les couilles qu'il me faudra pour vivre heureux loin de tes règles et de ton droit, hors de ton jeu. Les flics aux pieds, l'armée aux doigts, le peuple à l'œil, ça devient du grand n'importe quoi. Ta France en deuil, tu propagandes à tour de bras. Tu terrorises, un coup la peur, les attentats. Un coup la crise, mais ne te réjouis pas trop vite. Je ne suis pas seul dans les petites ruelles où j'habite. J'entends que ça gueule, il y a des millions de gens comme moi qui en ont plein l'eau de tes tasers et de tes lois. De tes bourreaux qui cherchent à étouffer nos joies, quitte à s'en prendre à nos marmots. Les flics aux pieds, l'armée aux doigts, les gosses à l'œil, les flics aux pieds, l'armée aux doigts. Les gosses à l'œil, les flics aux pieds, l'armée aux doigts. Les gosses à l'œil. Aux armes citoyens, aux armes citoyens, allons les boulonner ces chiens, aux armes citoyens, aux armes citoyens, allons les boulonner ces chiens, allons les boulonner ces chiens.
Écoute ta radio où tu veux, quand tu veux.
www.radionewsfm.fr 101.2.
Vous êtes donc toujours sur NewsFM 101.2 et à l'écoute de Micro-Ondes. On continue avec d'autres luttes, avec Kenja qui va nous parler du festival organisé par le CTNE et qui va présenter son invité Nadj.
Bien, ben, rebonjour, voilà, c'est Kenja, donc je suis un militant du CTNE. Alors je rappelle à nos auditeurs que le CTNE, c'est le comité traite négrière esclavage qui a organisé cette année donc les 12e rencontres sur la traite négrière et l'esclavage et qui ont lieu du 7 au 28 mai. Donc un peu comme la tradition l'a établi maintenant dans ces rencontres sur la traite négrière et l'esclavage, on a essayé de couvrir un peu l'ensemble du monde noir, du monde afro-descendant, donc l'Afrique, les États-Unis et la Caraïbe. Et cette année, le programme a été vraiment très très chargé, puisque nous avions, en gros, s'il faut faire une synthèse rapide, 7 conférences, une journée temps fort autour de la femme noire, une journée autour de l'abolition de l'esclavage à la Martinique, nous avions un vernissage d'exposition, nous avons un concert de musique groca de la Guadeloupe. Enfin voilà, tout un programme assez dense. Et nous avons donc voulu, cette année peut-être que nous étions arrivés à un niveau de maturité qui va peut-être nous permettre par la suite d'évoluer vers autre chose et donc de faire quelque chose qui marque un petit peu cette étape. Et j'aurai également le plaisir, l'avantage et l'honneur de recevoir notre ami Nadj Moubouana, Nadj pour les amis, et qui est également membre du CTNE, mais qui va nous parler un petit peu de la situation spécifique que vit Mayotte en ce moment. Nadj est donc un Comorien originaire de Mayotte, et bon, il va compléter un petit peu les informations que j'amène donc autour des 12e rencontres. Donc les 12e rencontres cette année ont été marquées, je dirais, par voilà, une assistance nombreuses à chacune pratiquement de nos propositions, avec des débats très nourris. Vraiment, on a noté cette année une espèce d'engouement et un intérêt pour les sujets que nous portions. Nous avons eu également beaucoup d'invités venus de l'extérieur, de Paris, de Genève, de Lyon, de Marseille, etc. Nous avons aussi essayé de mobiliser nos partenaires habituels. Donc, on a travaillé avec Survie, on a travaillé avec pas mal d'organisations et de militants qui nous accompagnent. Ce qu'il faut peut-être noter, ce qui ressort un petit peu, personnellement, ce qui m'a marqué, c'est par exemple cette journée du 14 autour de la femme noire, qui a vu l'émergence, nous l'espérons, une émergence qui va se stabiliser, de la problématique afroféministe, et donc d'un groupe de sœurs qui ont pris à charge, à cœur, de nous concocter vraiment un programme chargé, dense et de haut niveau, notamment avec la venue de conférencières comme Ndé Lapaille, qui a assuré vraiment une conférence de très très haut niveau, de très haut vol, qui a vraiment intéressé, qui a peut-être effrayé certains par sa radicalité, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont, et les sœurs vraiment ont assuré à cette occasion. Je noterai aussi le débat sur le franc CFA, qui a été très informatif. En fait, beaucoup de gens ignoraient les conditions, dans quelles conditions fonctionne ce franc CFA, et on a eu beaucoup de retours lorsque les gens ont appris que, par exemple, le franc CFA, en fait, c'était la reprise de la politique monétaire de l'Allemagne nazie pendant l'occupation française, et qui a été simplement calquée et reprise par De Gaulle au lendemain de la guerre, et qu'il a appliquée à l'Afrique. Et le détail des conséquences économiques, sociales, etc., en a surpris plus d'un qui pensait connaître un petit peu les conditions de vie en Afrique. Et c'est quelque chose qu'il nous faudra sans doute reprendre. On ne va pas faire le tour de toutes les conférences. Je ne sais pas, Nadj, si tu as une remarque particulière sur ces conférences. Est-ce qu'il y en a une qui a attiré ton attention? Je dois noter, je dois signaler que Nadj et moi, accompagnés de Kersan, nous avons animé un débat sur les 70 ans de la départementalisation, les destins croisés de l'assimilation à la Martinique et à Mayotte. Et peut-être que ça va nous permettre un petit peu de faire la passerelle, le lien avec la situation que vit Mayotte actuellement. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots?
Déjà, j'aimerais juste réévoquer ce que tu as un peu évoqué, effectivement, tout le programme. Pour répondre à tes questions, s'il y avait vraiment un événement qui m'avait bien marqué, c'est effectivement les 50 ans du Black Panther Party, il faut le préciser, cette année. Mm-hmm. Nous avons milité aussi pour Mumi Abu Jamal, qui est en réalité le plus vieux prisonnier politique aux États-Unis, qui a été 34 ans dans le couloir de la mort et 30 ans en prison aux États-Unis. Donc cette année, en l'honneur de la 50e année du Black Panther Party, nous avons animé une conférence avec un film suivi d'un débat qui avait été assuré par Jackie Urto, du collectif Libérons Mumia. Et le lendemain, on a eu aussi la chance d'accueillir Saïd Bou Bouamama, qui a aussi animé aussi une conférence autour du Black Panther Party pour ses 50e...
Conférence qui a été très suivie, parce que je peux noter que c'est la première fois où on n'a pas eu assez de chaises. Il y a eu plus de participants que de chaises disponibles.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait. Alors, pour revenir un tout petit peu sur Mayotte, effectivement, peut-être rappeler un peu le contexte, parce que Mayotte, c'est le 101e département de France, ce petit bout de France en plein milieu de l'Afrique.
Département depuis quand?
Depuis 2011, ça fait aujourd'hui 5 ans, cette année 5 ans que c'est un département. Alors comme je disais, ce petit bout de France situé en plein milieu de l'Afrique, entre Madagascar et le canal du Mozambique, depuis à peu près 2 mois, il s'est multiplié beaucoup de mouvements de contestation sociale, parce que les Mahorais ont demandé à faire appliquer le droit commun comme en métropole. Puisqu'il faut savoir qu'à Mayotte, beaucoup d'inégalités sur les prestations sociales et des choses comme ça, on peut en citer quelques-uns, tels que le code du travail qui n'est appliqué qu'à 25% par exemple, la semaine de travail qui est à 39 heures contre 35 heures en France, en métropole, le RSA qui a 268 euros contre 525 en France, faut savoir aussi qu'en termes d'infrastructure, beaucoup de choses sont à faire, puisque c'est un territoire qui a été très délaissé par la France. En nombre de lits d'hôpital, aujourd'hui, on compte à peu près 1,2 3 lits d'hôpital contre 4,1 en France pour 100 000 habitants, par exemple. Et pour les médecins, on compte 18 médecins pour 100 000 habitants contre 201 médecins en France pour 100 000 habitants. Faut savoir aussi que c'est le département qui a aussi le plus haut taux de chômage dans la métropole, en France, avec 19% de taux de chômage. Donc voilà, les Mahorais ont exprimé finalement leur mécontentement puisqu'ils demandent de l'établissement d'un droit commun comme en métropole. Depuis deux mois, effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu aussi des émeutiers qui se sont greffés à ça, puisque à Mayotte, il y a aussi une grosse problématique de délinquance. Et c'est développé autour de ça une xénophobie autour des autres insulaires, des Comores, qui sont aussi comoriens comme les Maorés, parce qu'il ne faut pas l'oublier que les Maorés sont comoriens, puisqu'on tend souvent à séparer Mayotte-Comores. Alors les Iliens des autres îles des Comores qui vivent à Mayotte, il faut savoir qu'à Mayotte, il y a 230 000 habitants, le tiers aujourd'hui est en situation irrégulière.
Est-ce que tu peux faire un petit retour sur la situation spécifique de Mayotte par rapport aux Comores, historiquement, etc.
D'accord.
Comment les choses se présentent?
Déjà, pour un peu apporter un peu plus de clarté sur les événements actuels, je finissais. Alors, depuis maintenant à peu près quelques semaines, on assiste vraiment à des raids où des gens se forment en milice pour aller expulser en fait des personnes en situation irrégulière dans des terrains où ils se sont établis avec leur famille. On a compté 300 personnes qui ont été expulsées, qui ont été relogées sur la place de la République à Mayotte.
Quand tu dis personnes en situation irrégulière, tu fais référence à des Comoriens qui ont immigré à Mayotte.
Exactement, et qui ne seraient pas français en l'occurrence.
D'accord.
Tout à fait. Donc ces personnes-là ont été relogées sur la place de la République à Mayotte. On compte parmi eux des enfants même en situation de scolarité. C'est assez grave, qui dorment aujourd'hui dans des conditions assez dures. Et aussi, il faut le dire, et je le dénonce avec un peu aussi la participation de la municipalité, puisqu'on a vu la municipalité aussi brûler des cases, en fait. Mmh. Et ça n'a pas été relayé par les médias. D'ailleurs, le cas de Mayotte actuellement, on n'en entend pas beaucoup parler, même dans les médias aujourd'hui. Et je trouve que c'est assez dommage, parce que ce qui se passe là-bas aujourd'hui, c'est assez grave. Mmh. Et c'est en train de prendre des proportions assez inquiétantes, puisque on assiste vraiment à une division des Comoriens de Mayotte avec les Comoriens des autres îles. Une vraie haine est en train de se monter, une xénophobie, comme je disais tout à l'heure. Donc il est très important de le savoir. Effectivement, pour revenir un peu dans un contexte et partir d'un point de vue plus ou moins historique, pour voir peut-être où toutes ces différences pourraient prendre ses sources. Alors, faut savoir que Mayotte, en fait, est un territoire qui a été acheté en 1841 par le commandant Passot à la France, qui l'a acheté à un sultan de Mayotte. En 1841, puis en 1896, la France, qui s'était établie depuis 1841, prend possession des quatre autres îles des Comores et en fait un protectorat. En 1906, Madagascar, qui était déjà aussi une colonie, va rassembler en fait toutes ces colonies puisqu'elles sont à proximité. On appellera ça Madagascar indépendance, y compris les Comores dedans, les quatre îles, Mayotte, Anjouan, Grande Comore et Mohéli. Ensuite, en 1974, en fait, suite, on assiste à peu près à, depuis une dizaine d'années avant, un peu au mouvement d'indépendance dans toute l'Afrique. Là, un référendum est posé dans les Comores, en fait, où on demande aux Comoriens si effectivement ils veulent être indépendants. Sur les quatre îles, sur le résultat global, en 1974, les Comores décident d'être indépendants. Seulement, Mayotte a 63%. Lors de ce premier vote-là, décide de ne pas être indépendant et de rester français. Chose qu'ensuite, en 1975, l'ONU condamnera la France pour, au travers d'une résolution. Donc la France est condamnée pour un vote illégal, pour avoir séparé finalement, ne pas avoir respecté l'intégrité de l'ensemble du territoire comorien. En 1976, elle refait un référendum, mais uniquement sur l'île de Mayotte, pour demander justement aux Maorés si effectivement ils voulaient confirmer leur souhait d'être rattachés à la France. En 76, c'est assez spectaculaire, plus de 99,93% des gens votent pour être français. Voilà, on peut remettre en question peut-être les statistiques, bon, je ne sais pas. Donc voilà, pour un peu revenir à cette situation-là, qui est important de bien noter, c'est que là, en fait, on assiste très clairement à une division, puisque la France décide de séparer les résultats de Mayotte qui étaient compris dans un résultat d'ensemble et qui n'a pas respecté l'intégrité de l'archipel des Comores, du coup va récupérer en fait une île sur les autres îles, et ça sera la seule île. Et effectivement, Mayotte aujourd'hui a développé aussi effectivement un niveau de vie qui est 7 fois supérieur à ceux des autres îles d'à côté. En 95, il faut aussi le préciser, il y a eu ce qu'on appelait le visa baladur, qui impose à toutes les personnes en fait des autres îles on impose un visa, c'est difficile à obtenir pour éviter que les gens viennent, ce qui pousse beaucoup de gens sur un bras de mer de 70 km de large, puisque l'île la plus proche de Mayotte, qui est l'île d'Anjouan, se situant à 70 km, ça en fera aujourd'hui en fait le plus grand cimetière marin du monde. C'est le plus grand cimetière marin du monde. En 2015, on a comptabilisé plus de 10 000 morts en fait dans ce bras de mer de 70 000 km. C'est aussi très important de le voir. Et là, en fait, la source, on la connaît, c'est ce visa baladur, puisque les gens prennent des risques assez énormes pour pouvoir faire cette traversée, souvent sur des petites barquettes, ils sont à 20 et voilà. Et des passeurs font aussi leur argent dessus. Et c'est très grave.
Et en plus, ils sont pourchassés par les navires de la police.
Tout à fait. Voilà, il y a la police de l'immigration qui aussi est là pour plus ou moins contrôler cette immigration. Mais voilà, il y a des conséquences aujourd'hui et c'est assez grave. Il faut revenir dessus. Donc voilà un peu la situation concernant Mayotte.
Alors, lors de notre débat dans le cadre des 12e rencontres du CTNE, on avait mis en exergue en fait le destin croisé de l'assimilation, si on comparait la situation aux Antilles, à la Martinique notamment, et à Mayotte. Puisqu'à la Martinique, donc, Aimé Césaire avait défendu la départementalisation en 1946, et puis les déceptions aidant et l'évolution aidant, après les événements sociaux de 2009, la Martinique avait choisi par un vote d'autodétermination, entre guillemets, en 2010, de quitter un peu le statut départemental, tout en restant dans le droit commun, et donc aujourd'hui est régi par une organisation en termes de collectivité territoriale de Martinique, avec un parlement, entre guillemets, et un exécutif détaché, qui fait office un petit peu d'un petit gouvernement, tout en restant dans le droit commun français. Et au moment, donc la Martinique, qui a été un peu pionnière dans ce vote de départementalisation, quitte le statut au moment où Mayotte s'y engage. Et à Mayotte, par contre, on n'a pas attendu 70 ans pour protester contre les inégalités, etc. Quel est l'état actuel de la mobilisation sociale autour du rattrapage, etc., autour du thème de l'égalité, quelles sont les perspectives, et comment, en fait, les deux problématiques entre cette égalité sociale réclamée à la France et le fait de vouloir chasser les frères comoriens en situation illégale, en fait, comment les deux, ça s'articule, et quelle est la situation réelle en ce moment au pays, quoi.
Alors, effectivement, comme tu le précisais, la Martinique est un peu pionnier dans cette départementalisation, puisque 70 ans aujourd'hui, vous en avez fait le bilan, et on est en train plus ou moins de faire une marche arrière. Là, effectivement, Mayotte, on assiste complètement à l'inverse, puisque avec un tout petit peu d'autonomie, là, on exprime effectivement un vrai rattachement avec un droit commun exactement comme à la métropole, sans forcément aussi tenir compte peut-être des spécificités locales, puisqu'il faut le préciser, un territoire qui est à 98% musulman aujourd'hui, avait aussi des droits coutumiers qui se voient aujourd'hui supprimés. Et ces droits coutumiers-là sont en train aussi de déstabiliser un peu l'équilibre social de ce pays-là. Alors effectivement, en termes de perspective, alors on entend parler d'un projet, c'est Mayotte 2025. D'ici là, effectivement, la Cour des comptes, puisqu'avait fait un bilan, avait effectivement pointé le doigt sur le fait qu'il y a eu un manque de pilotage sur les investissements et aussi la restructuration de l'île. Aujourd'hui, suite à ces grèves-là, puisqu'en 2009, en Guadeloupe, ça s'est passé, nous, en 2011, la même année où on a obtenu légalement la départementalisation, la même année, les Maorés, en fait, ont fait aussi une grève générale contre la vie chère, semblable à celle de la Guadeloupe. Donc voilà un peu, on pourrait peut-être mettre en...
D'accord. Je pense que on a fait un petit peu le tour. Je ne sais pas s'il y a des réactions, questions.
Bah, merci beaucoup pour cet éclairage. C'est vrai que c'est un sujet dont on n'entend pas du tout assez parler. Donc c'était vraiment super impressionnant tout ce que tu es venu nous dire.
Je t'en prie.
Et je crois que on va te retrouver tout à l'heure pour la table ronde. Donc on ne dit pas au revoir tout de suite. Mais tu nous avais choisi un morceau à passer. Donc c'est on va l'écouter maintenant si tu veux le présenter.
C'est ça, c'est Kamal en fait qui est béninois si je me trompe pas. Et le morceau s'appelle Assume ta jeunesse. C'est un morceau avec des paroles je dirais conscientes que j'aime bien. Donc voilà.
Depuis 1960, mon pays va de vague en vague et divague. Un demi-siècle qu'on rentre dans le mur et le développement rend le largue. C'est vrai, c'est la faute à personne, car du béninois à l'africain, on attend que l'heure de Dieu sonne. How can I tell you that the life you live is not your own? Je ne t'apprends rien, c'est sûr, nous savons tous que la vie est dure. Excuse cette tête de slameur, elle pense qu'ici nous vivons dans une folie générale, que tout le monde est fou. Excuse-la aussi, parce qu'elle pense que la surdité n'est pas seulement cette maladie où l'on a les oreilles bouchées, parce que tout le monde est sous. Ma jeunesse, son problème c'est « swag is no question ». Maybe Gaddafi is crazy, maybe it's not your problem. Faudrait peut-être penser à brûler le yes weekend, montrer le yes Africa you can't, afficher le Obama is dangerous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans la savane, l'Afrique. Ici nous savons très bien qu'émander, oui, mes pères et moi nous savons très bien demander de l'aide. Comment pouvons-nous penser que c'est parce qu'un noir est à la tête de la plus grande mafia du monde, de la plus grande puissance économique du monde, il allait penser à nous? L'Amérique a ses problèmes et ses intérêts, c'est tout. I would love to live in the country where you don't pay light and water. J'aimerais vivre dans un pays où l'on ne paye pas l'électricité et l'eau, où le litre d'essence est 55 francs, où la bourse de l'étudiant est 1647 euros, soit le salaire d'un Français. My history teacher told me, your country is independent. But it's not true, parce que nous ne sommes même pas capables d'éteindre nos télés et d'allumer nos cerveaux, dira mon ami Giovanni. Dans mon pays, la tête qui pense, l'Union africaine, est appelée une tête folle. Je comprends pourquoi ce vieux président qui n'est pas beaucoup allé à l'école les a tous traités d'intellectuels tarés. Dans mon pays, l'heure de l'abrutissement, c'est 20h30, feuilleton. De Marimar à Ruby ou de la fille du jardinier à Yuri, on aura tout vu. Et ma jeunesse, cette jeunesse qui devrait changer les choses, une partie d'elle traîne dans le « Wesh, my nigga, viens pas me test, wesh, you're the best ». But let me tell you, my nigga, that this way is wrong. Tcho! Ici, les gens se désolidarisent. Nous vivons sans le savoir dans la plus belle des crises. And you can ask my friend what I'm saying. I say, do what you have to do and let's even do the remaining. Born black, they call me black man, but I'm not black in my heart, I'm not black in my mind. Adieu Thomas Sankara, parce qu'il a compris trop tôt ce qu'ils comprendront très tard. Ma jeunesse n'a plus de héros, n'a plus de modèles, à part ces vendeurs de sexe, hommes corrompus, vendus de leur race, qui traînent dans nos télés. Ils ne savent rien de Patrice Lumumba, de Thomas Sankara, de Kwame Nkrumah, de Samori Touré. Mais cette jeunesse, ne doit pas être une jeunesse de révoltés, mais une jeunesse de révolution. L'esprit est lumière, il a reçu la lumière sacrée. Noir de peau, oui, mais pas noir dans la tête. Blanc de peau, mais pas noir dans la tête. L'esprit doit conduire ma jeunesse à rendre possible aujourd'hui l'impossible d'hier. No limit generation. Vas-y, assume ta jeunesse. Enfoiré.
Vous êtes toujours sur News FM 101.2 et l'émission Micro-ondes. Et pendant qu'on écoutait Kamal et son morceau Assume ta jeunesse, on a eu un appel d'une auditrice qui voulait réagir sur l'intervention qui vient de se faire de Nadj. Alors, bonjour. Allô, allô. Oui, allô.
Oui, allô, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Alors, on vous écoute.
Alors, excusez-moi, bonjour. Vous m'entendez ?
Oui, oui.
Pardon. Alors oui, moi je vous appelle, j'ai bien écouté l'intervention de monsieur Moinan Ajmou, et voilà, je voulais ajouter quelques informations aux complémentaires justement en ce qui concerne Mayotte, et par rapport à la situation actuelle. Je suis moi-même mahoraise, j'y ai vécu durant plusieurs années et à l'heure actuelle, c'est vrai que la situation est assez tendue. Et il y a une chose que M. Guana a dit et qui m'a interpellée, c'est le fait que la situation à Mayotte aujourd'hui ne soit pas médiatisée. Et effectivement, la situation à Mayotte aujourd'hui est telle que les Mahorais, il y a un ras-le-bol général et une sorte de difficulté à gérer la situation. On parle d'un climat xénophobe qui est véridique, qu'on peut constater, qu'on peut observer. Mais ce climat fait suite à plusieurs... à un désintérêt de la part de la France vis-à-vis de Mayotte. Et la population mahoraise ne sait plus comment réagir face à cette situation-là. Et la situation actuelle est dénoncée depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années... Ce n'est aujourd'hui la situation explose, la situation a explosé, les événements nous dépassent, on assiste à des agressions quotidiennes, des cambriolages, des vols, des viols, des meurtres presque. On en est à ne plus sortir le soir parce que les gens sont paniqués. Et au fait, ce climat-là, justement, il fait suite à un désintérêt important de la France vis-à-vis de Mayotte. Et c'est ce que les Mahorais ont essayé de dénoncer ces derniers jours grâce à des mouvements de contestation. Et voilà. Donc je voulais justement rajouter un petit peu mon grain de sel pour dire que tout ce que M. Guana a dit est vrai. Mais il faut rappeler que la situation aurait pu être traitée, prise en compte depuis plusieurs décennies, depuis plusieurs années. Je suis moi-même... titulaire d'un diplôme en aménagement, en géographie. Et la situation foncière à Mayotte est une situation qui devait être prise en compte depuis plusieurs décennies et qui n'a jamais été traitée. Et aujourd'hui, le problème qui existe entre les Comoriens et les Mahorais, la raison pour laquelle les étrangers, entre guillemets, à Mayotte sont chassés, ce que je ne défends pas cette situation-là, au contraire, je la condamne. Mais aujourd'hui, si ce qui arrive, arrive, ça, ce qui se passe aujourd'hui à Mayotte, et si on en arrive là, c'est que la France n'a jamais souhaité, ne serait-ce que accorder de l'intérêt à Mayotte. Depuis un bon moment, on est des citoyens de seconde zone. Et aujourd'hui, le climat est tendu et la population souhaite se faire entendre. Donc aujourd'hui, nous, on ne veut pas être entendu à la radio, à la télé. On a assez fait de bruit et on a remarqué que les gens ne s'intéressent pas à nous. Par contre, on souhaiterait être entendu par le gouvernement maoré, mais aussi par le gouvernement comorien. Les deux ont leur part de responsabilité et les deux devraient assumer leur responsabilité vis-à-vis de Mayotte. C'est-à-dire soit qu'on soit un territoire autonome, ce qui me semble être une alternative, une solution plutôt bonne, mais à voir aussi quelles sont les dispositions, quelles sont les mesures à prendre et comment faire. Mais aujourd'hui, c'est vrai que Mayotte en France, c'est problématique parce que c'est une sorte d'appel d'air, mais en même temps dans une situation misérable dans l'océan Indien. Et en même temps, Mayotte en tant que Comorien, territoire des Comores, de l'État des Comores, comment on peut gérer cette situation-là vu notre position aujourd'hui. Donc c'est vrai que, enfin moi j'ai été très attentive à ce que Monsieur Bouana a dit et donc voilà, je voulais juste donner mon opinion en tant que jeune Mauraise et si ce dernier a des choses à rajouter, pourquoi pas.
Eh ben merci beaucoup. C'est toujours super agréable d'avoir des auditeurs auditrices qui nous appellent pour rajouter leur éclairage à ce dont on discute. Et ben du coup, on va vous laisser peut-être raccrocher parce que aussi techniquement pour nous c'est plus facile. Et ça après marche. On repasse la parole à Nadj et n'hésitez pas à rappeler pendant l'émission ou sur une prochaine émission. Merci encore.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Déjà, merci à cette auditrice pour son éclaircissement sur le point sur Mayotte. Effectivement, elle a soulevé aussi des choses qui étaient assez intéressantes. Au niveau du foncier, effectivement, Mayotte, beaucoup de choses ont aussi mis un peu la poudre au feu, puisque le foncier, quelque part, les terres sont quelque chose d'assez sacré et dans les valeurs des cultures mahoraises. En 2011, quand Mayotte est devenue officiellement un département, les gens ont vu plus vite les désavantages que les avantages en fait que ça pouvait y apporter. Et le foncier, effectivement, est un paramètre à prendre en compte, puisqu'aujourd'hui, les gens sont amenés à payer en fait le foncier, chose qu'ils n'avaient pas l'habitude de payer avant. C'est peut-être aussi ça qui a apporté un peu plus de problèmes aux expulsions, puisque des gens sont en train de se dire pourquoi est-ce qu'on paierait des terres et que des immigrés viennent occuper nos terres et qu'ils n'étaient pas d'accord. La France, effectivement, n'a peut-être pas fait aussi son devoir d'informer les gens, ou les élus aussi, hein, locaux de Mayotte n'ont pas fait le travail de montrer aussi les points négatifs qu'apportait cette départementalisation-là, puisqu'elle avait été aussi présentée comme forcément tous les comme une aubaine et avec tous les bénéfices que ça avait apporté, mais sans voir effectivement les mauvais côtés. Concernant, elle a évoqué aussi la violence à laquelle Mayotte a faire face aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui aurait pu être aussi anticipé pour moi, puisque moi, je le pensais déjà depuis très longtemps. À Mayotte, on assiste à un phénomène qui est assez... pour moi, c'est grave parce que on a un terme qui dit des bombes à retardement, en fait. Et quand on parle de bombes à retardement, il s'agit en réalité d'enfants. Puisque Mayotte fait face à une très grosse immigration, il ne faut pas oublier qu'à elle toute seule, fait plus de la moitié, de la totalité des reconductions à la frontière que fait la France. Hein. La France, à elle toute seule, cette petite île de 374 km², c'est à peu près l'agglomération de Grenoble, si on peut comparer ça comme ça. Elle, toute seule, elle fait la moitié des reconduites à la frontière. Et alors, quand des gens des autres îles sont établis à Mayotte et qu'elles sont expulsées, elles ne disent pas qu'elles ont des enfants, puisqu'elles veulent donner à ces enfants-là une chance de pouvoir s'en sortir avec les avantages de la France, en fait. Et effectivement, ces enfants-là sont livrés à eux-mêmes. Pour certains, il y en a, ils s'en sortent, et pour d'autres, malheureusement, ça tourne très mal. Ils dorment dans des voitures, ils dorment dans des carcasses de voitures, on a des vrais favelas à Mayotte. Hein. Et quand je dis des favelas, c'est des vrais favelas. Et il y a des villages comme ça à Mayotte. Et ces jeunes-là, aujourd'hui, la préfecture, je me rappelle, en 2014, avait recensé 8000 enfants sans tuteur légal sur le territoire. Et même avant, en 2006 aussi, il y avait un autre chiffre, je crois, qui était de 3000 ou 4000. Donc ça avait augmenté en 4 ans. ces enfants-là, on savait que s'ils n'avaient pas été pris en charge, voilà, ils étaient livrés à eux-mêmes et allaient forcément tourner mal. Et aujourd'hui, on se rend compte que ben, cette violence est aussi peut-être due à ça. Et on savait que ça allait arriver, mais on a laissé faire. Moi, quand j'entre à Mayotte, effectivement, je vais faire les courses souvent. Quand je passe devant les centres commerciaux, on voit des enfants faire la manche. On est en France et on voit des enfants faire la manche. Voilà. Donc, effectivement, il y a des choses qui auraient pu aussi laisser présage à ces choses-là aujourd'hui. Mais il y a aussi, comme elle le dit, un désintéressement de la France puisque... Voilà, il n'y a pas eu de pilotage, il n'y a rien eu qui s'est fait pour pouvoir au moins mener à terme une bonne politique sur Mayotte. Et même aussi, j'aimerais souligner quelque chose d'assez important, il y a les Comores. Mayotte fait partie des Comores, on est d'accord. On ne peut pas, du jour au lendemain, séparer une île comme ça. C'est impossible, puisque c'est des gens qui ont une même culture, qui ont les mêmes habitudes. Voilà. Et puis, il y a quelque chose qui n'est pas fait pour aussi aider les autres en face de nous. C'est simple, c'est juste la coopérative régionale. À Mayotte, il n'y a pas beaucoup de culture. Ce qu'on aurait peut-être pu faire, c'est aussi faire aussi une coopérative régionale, travailler avec les îles à côté, faire de l'emploi de l'autre côté. Ça aussi inciterait un meilleur avenir, un meilleur devenir pour le pays en face. Et là, voilà, aujourd'hui, actuellement, il n'y a rien qui n'est fait dans ce sens-là. Et c'est vraiment, il y a vraiment en fait une séparation, un vrai rideau. Il n'y a aucune politique qui commune entre les autres îles des Comores et l'île de Mayotte, en fait. Donc voilà, ça aussi, ça a peut-être aussi mis un peu plus de d'huile au feu, quoi, aujourd'hui.
Merci, Nadj, pour ces précisions. Comme c'est un peu la folie aujourd'hui à micro-ondes, on a un autre appel d'auditrice, cette fois sur un sujet différent, je pense. Alors, bonjour.
Bonjour, du coup, ben, nous, c'est M et Perrine de l'équipe de Parloir Libre de News FM. D'abord, on avait envie de remercier toute l'équipe de Micro-Ondes parce que ça fait quand même plaisir d'entendre toutes les infos qu'on entend très très rarement dans tous les autres médias. Du coup, voilà, d'abord merci à tout le monde et à tous les invités. Et puis, du coup, nous on appelle pour parler de l'histoire de Kamel Bouabdallah. Kamel Bouabdallah, c'est un prisonnier longue peine qui est très jeune, il a 28 ans. Et il a pris une grosse peine, il a pris 25 ans en première instance. Et du coup, il y a un collectif marseillais qui s'appelle Kamel Libre et qui appelle à la solidarité, à se rassembler pour son procès en appel. Très vite, pour contextualiser, Kamel, il a fait plusieurs allers-retours en prison depuis très jeune. Et du coup, c'est une série de braquages en 2011 qui va le faire tomber pour cette grosse peine. Et du coup, voilà. Enfin, depuis qu'il est à l'intérieur, il dénonce les conditions de détention, il dénonce la longueur des peines. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait mettre 25 ans à quelqu'un ? Qu'est-ce que c'est enfermer quelqu'un aussi longtemps ? Du coup, voilà. Nous, on avait envie de relayer cet appel-là. Et du coup, les précisions.
Alors, les précisions, c'est que Kamel, il va passer en appel à la cour d'assises d'appel de Grenoble les 20, 21 et 22 juin. Et on appelle à se rassembler devant le palais de justice qui se trouve au 1 place Firmin Gauthier, derrière la gare. Et voilà, être nombreux à se mobiliser, je pense qu'on aura un petit peu à manger, à boire sur place et on pourra discuter un petit peu... justement des conditions de détention et puis du fait que des gens prennent 25-30 ans de tôle et surtout ne sortent pas avant la fin de leur peine, comme on nous le dit souvent, ouais mais ils prennent 25 ans mais au bout de 10 ans ils sont sortis. Et ben non, en fait aujourd'hui quand on prend 25 ans on reste 25 ans en tôle et voilà, ben on est, et en plus si on dénonce les conditions de détention à l'intérieur, souvent on va en isolement et on sort quasiment pas de notre cellule. Donc voilà, on espère qu'on sera nombreux les 20, 21 et 22 juin à partir de 9h. Et si vous voulez adresser des messages de soutien à Kamel, c'est possible d'écrire à l'adresse mail kamellibre.collectif@gmail.com. Et il y a un blog aussi qui s'appelle kamellibre.noblogs.org où il y a possibilité d'avoir un peu plus d'infos sur le collectif de soutien à Kamel et sur l'histoire aussi de Kamel. Et oui.
Non, allez-y.
Ah, ok. Et on avait envie de lire un petit texte de Kamel aussi, parce que lui, il écrit pas mal de textes à l'intérieur de la prison. Actuellement, il est à Vars, hein, vu qu'il va passer en appel à Grenoble. Alors, le petit texte, « Contre la violence psychologique, l'enfermement est-ce logique ? Élimination, justice, cruelle, si t'es pas riche comme Bruelle. Ils m'enterrent doucement à la truelle. Je capte pas, je suis dans un tunnel. Tueur ? Au bout, je vois pas la lueur. Pas de lumière, triste, sombre est l'univers. Collectif Kamel libre, uni vers un objectif qu'il me libère. »
Merci beaucoup pour cette information et ce témoignage. Et donc, on retrouve Parloir Libre à la rentrée sur News FM, j'imagine ?
Eh bien, on espère, et on espère même pouvoir venir toutes les de 21h à 22h le jeudi soir.
Super, et ben, alors, merci.
Juste une petite dernière précision,
oui.
On est plusieurs à s'organiser sur Grenoble pour diffuser un maximum l'appel à solidarité que du coup Kamel, via le collectif, appelle. Et du coup, ben, pour tout ce qui est diffusion, organiser des événements soutien, des dons, parce qu'il y a des frais d'avocat aussi, c'est possible d'écrire à l'adresse mail suivante, soutien-kamel-libre38@riseup.net. Voilà, c'était la petite dernière précision.
Merci beaucoup et à bientôt donc pour les différents rendez-vous que vous avez annoncés. Et on continue donc sur News FM avec l'émission Micro-ondes qui arrive à la fin de son de sa première partie d'actualité des luttes pour donc poursuivre sur ce grand débat et ses nombreux invités qui sur la convergence donc des luttes. Et avant d'entamer cette nouvelle partie d'émission, on va écouter un morceau qu'on laissera une de nos invitées désannoncer, comme on dit en radio, c'est-à-dire voilà, indiquer le titre et le musicien en fin de morceau. On l'écoute.
أولى لي من وصي حريا وهذا حد العشرة هذا ربي ما أكتب ويايا شينا لي البرها ديما يبان لي خيالها ويا حسن عوليا يا نجم عطار بحر ويايا
انا حدي
Vous êtes toujours sur News FM 101.2 pour l'émission Micro-ondes, la dernière de la saison. On va reprendre la deuxième partie d'émission avec tout un tas d'invités. Donc bonjour à tous et à toutes.
Bonjour.
Et avant ça, on va laisser Farida nous présenter le morceau qu'on vient d'écouter.
Bonjour à tous et à toutes. Farida, travailleuse sans papier, membre de la CGT. Et j'offre cette chanson à tous les sans-papiers et je leur dis bon courage, camarades.
Est-ce que tu peux nous rappeler, c'était quoi le titre et qui c'est l'interprète?
C'était le titre Sheila Lina Briha. C'est la fille que j'aime et que j'ai laissée au bled.
Merci beaucoup.
Alors là, du coup, je m'installe. on va reprendre. Cette deuxième partie, en fait, elle fait suite à une première partie qui avait eu lieu le 1er mai. Donc, pour certains d'entre vous, vous étiez déjà là le 1er mai pour un débat sur l'interlute. Donc, l'idée, c'est pas de refaire le même débat, mais bien de partir de là où on en était la dernière fois. Tout le monde était à peu près d'accord pour dire que le capitalisme, entre autres dégâts, il avait fabriqué des divisions au sein de la société. Avait renforcé des dominations croisées, brisé toute alliance possible. Donc on a vu la société se segmenter, les différents groupes sociaux entrer en concurrence en accusant ici les étrangers, les musulmans, les chômeurs, les fraudeurs, là les allocateurs profiteurs ou encore les jeunes des quartiers, les Roumains. Donc on a vu aussi émerger l'idée qu'il existerait une grande classe moyenne. Chacune des catégories, en fait, essayant de se distinguer des pauvres, ne se reconnaissant pas dans la classe prolétarienne. Et ça, c'est des choses qui avaient été évoquées déjà la dernière fois et qui étaient déjà remises en question. Et ces divisions opéraient concrètement au sein de la société, faisant de nombreuses victimes du racisme, de l'exploitation et transformant chaque différence en rapport de domination. Pose aussi des questions directement à la notion d'interlute, qui est dans toutes les bouches, dans tout le monde en veut, tout le monde trouve ça super, et à la fois de l'interlute, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle d'une interlute syndicale? Est-ce qu'on parle d'une interlute syndicat quartier populaire? Comment, avec toutes ces divisions, on arrive quand même à lutter ensemble? Donc les questions qui avaient été posées en fin d'émission la dernière fois, c'était est-ce qu'on lutte ensemble en se mettant d'accord sur un objectif commun? Est-ce qu'on crée un système avec des priorités? Il y avait de nombreux syndicalistes qui ont été rassemblés autour notamment de la loi travail. Alors est-ce que la loi travail peut rassembler tout le monde? Sachant que cette lutte anticapitaliste et cette lutte contre la loi travail, elle peut être difficilement entendable quand on vient dans un quartier où il y a 40% de chômeurs, par exemple, chez les jeunes. C'est difficile de se mobiliser sur la question du travail. Donc, du coup, en termes d'interlute, il va falloir faire quelque chose d'autre. Et qu'est-ce qui avait été dit encore la dernière fois? Comment lutter ensemble quand ces rapports de domination nous traversent nous-mêmes en tant qu'individus? Et voilà. Donc, pour continuer ce débat, on a avec nous... le CTNE, qu'on a vu tout à l'heure, le FUQP, Précaires Solidaires, Sud, la CNT, la CGT, CGT Sans Papier, Nuit Debout, le DAL, voilà. Et je voulais commencer, en fait, soit quelqu'un était prêt à partir comme ça, soit on partait d'une citation qui nous semblait poser, une citation d'Éric Fassin, qui nous semblait poser le point de départ du débat pour aujourd'hui. Alors la citation, ça donne ça. En effet, la répression ouvre paradoxalement un nouvel espace qu'il importe d'appréhender stratégiquement. La jeunesse de classe moyenne, d'ordinaire blanche, découvre dans les manifestations une violence d'État qu'une autre jeunesse souvent racisée, elle, connaît depuis des années. Des quartiers populaires connaît... je reprends. Celle des quartiers populaires connaît au quotidien depuis bien longtemps. C'est que notre société est traversée par des divergences, des clivages de classes racisées. Toutefois, cette expérience commune de la répression comble un peu le fossé qui sépare les premiers de la seconde. Le sang qui coule crée des solidarités qui vont au-delà des bonnes intentions et des belles paroles. L'expérience d'un état d'insécurité politique, en même temps qu'économique, n'est-elle pas l'occasion de coalition nouvelle? L'état d'insécurité n'est-il pas en train de susciter un regain de mobilisation? Et ça, c'est une citation d'Éric Fassin. Voilà. Est-ce que ça vous...
Est-ce que ça vous inspire ?
Est-ce que ça vous inspire ?
Vous voulez rebondir là-dessus ? Bah, ils sont un peu timides, nos invités, là. C'est vrai qu'on n'a pas eu tant de choses.
Alors, ici... Ouais.
Oui, bonjour à toutes et tous. Eh ben, moi, je suis Guillaume de la CNT. Bah, j'ouvre le bal, avec plaisir.
Merci.
Donc, oui, c'est inspirant. Alors, est-ce qu'il faut comprendre, à travers cette citation, que l'adversité tend à créer des solidarités ? Bon, moi, j'en suis persuadé. Mais le problème, de mon point de vue... c'est de ne créer des solidarités que dans l'adversité et être dans des postures de défense de l'existant, c'est-à-dire d'être dans des luttes qui sont pour la conservation d'un certain modèle social, d'une certaine sécurité sociale, etc. Là, je ne pense pas, sur le plan qualitatif, c'est-à-dire en termes de dynamique, en termes d'envie, en termes de solidarité, en termes de convergence des luttes, que ce genre de lutte, si elles sont absolument nécessaires pour pas tomber plus bas, elles soient par contre suffisamment motivantes pour réussir à créer une dynamique. Je crois qu'on est passé dans une situation aujourd'hui où c'est vrai que les luttes qui existent et qui sont susceptibles de prendre un petit peu d'ampleur ne se font que sur ce modèle-là, alors que je ne sais pas si c'est par nostalgie ou par stratégie, j'ai plutôt tendance à penser, et un certain nombre de mes camarades avec moi, que des luttes qui soient sur alors, ce qu'on appelait autrefois, et ce qu'on appelle toujours, nous, des luttes révolutionnaires, c'est-à-dire des luttes qui proposent un autre modèle social, d'autres rapports sociaux, un renversement des structures, et d'autres façons de relationner entre nous, ces luttes-là, elles sont plus intéressantes à poursuivre et à vivre. Voilà. Donc, moi, c'est ce que j'entends chez Fassin, c'est plutôt que de faire contre mauvaise fortune bon cœur, essayer de trouver quelque chose qui soit agréable à organiser, qui soit émancipateur tout de suite ici et maintenant, et peut-être qu'effectivement les réalités des jeunes des quartiers qui aujourd'hui sautent à la gueule des milieux plus favorisés seraient à ce moment-là susceptibles d'être partagées par un plus grand nombre, et la révolte peut être susceptible aussi d'être partagée par un plus grand nombre.
Oui.
Christelle. Alors Christelle, pour Nuit Debout, mais en ce moment je passe quand même plus de temps avec le collectif On Bloque Tout qu'avec Nuit Debout, et ça pourra être intéressant d'expliquer pourquoi on glisse de l'un à l'autre et quelles sont les limites justement des engagements et des possibles dans les différents groupes. Moi je partage pas complètement l'opinion de Fassin, que je trouve relativement romantique et un peu utopique. Je trouve que la répression produit de la radicalisation et des séparations. Nous, Nuit Debout, depuis la manifestation du 49-3, qui a été une grosse mobilisation, mais où il y a eu un certain nombre de casses, etc., on s'est complètement enlisé, voire battu sur les questions de violence, non-violence, où est la violence, qu'est-ce que la violence, etc. Et Enfin, il y a eu beaucoup de débats justement sur la radicalisation du mouvement, la répression, le fait qu'il y a des gens qui n'osaient plus aller en manif parce qu'ils avaient peur, le fait que d'autres trouvaient qu'on n'était pas à la hauteur pour répondre face à ce qu'on recevait. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas senti. Ça fait maintenant 3 mois que les gens sont en grève et que c'est de la bataille. Je n'ai pas senti un grand élan de solidarité et on fait bloc parce qu'on nous tape dur sur la tête. Hein. J'ai senti, ça a été par exemple super compliqué à Nuit Debout de demander aux gens de ne pas utiliser le mot casseur et de ne pas reproduire des choses qui venaient des médias, de l'État, etc. Enfin voilà, donc moi en tout cas ça me questionne. Je pense que la violence et la dureté de la répression, elle radicalise un certain nombre de gens qui deviennent effectivement encore plus déterminés et qui ont encore moins envie de lâcher, mais je ne suis pas sûre qu'elle déclenche un engagement global. Par contre, il y a une solidarité, c'est-à-dire que ça fait 3 mois qu'on est en bataille et il y a toujours 75% de la population qui soutient les gens qui manifestent et qui protestent. Mais je trouve qu'on est aussi en ce moment dans des espèces de délégations d'engagement. C'est-à-dire que 80% de la population française est contre la loi travail, puis on peine à mettre les gens en grève, on peine à se mobiliser. Donc comme les gens délèguent leur pouvoir en allant voter une fois tous les 5 ans, bah maintenant ils délèguent leur pouvoir de résistance syndicaux radicaux qui bloquent des points de travail et des points de perturbation et aux militants qui veulent bien aller s'engager. Enfin, moi, en ce moment, j'ai un peu un constat un peu plus sombre hein, quand même.
Oui, merci Christelle. Abdel Frouni, des immigrations et quartiers populaires. Moi aussi, je reviens, comme Christelle, sur la citation qui a été faite juste avant, en disant est-ce que ce que nous vivons actuellement peut permettre de combler le fossé. Je voudrais juste revenir un petit peu sur l'histoire et la révolte des quartiers en 2005, où les jeunes de mémoire de 400 quartiers de France se sont insurgés contre des oppressions qui durent depuis une trentaine d'années. Il y a eu une absence totale de convergence des luttes à ce moment-là, où on a eu affaire à une loi martiale avec une violence extrême, des couvre-feux, etc. On a été isolés, très peu de mobilisation de ces fameux jeunes dont on parle actuellement, issus d'une certaine bourgeoisie ou d'une classe moyenne. Donc aujourd'hui, c'est compliqué lorsque c'est ces jeunes qui sont issus des quartiers, issus des milieux favorisés, qui viennent réclamer de l'aide au quartier, c'est difficile de se faire entendre. Il ne faut pas oublier aussi, comme l'avait dit Jeanne tout à l'heure, il y a une très grande précarité dans les quartiers avec 40 à 50% de chômage chez les jeunes, alors que chez la population majoritaire, elle est de 20-25%. Là aussi, ce que nous impose la loi travail avec une précarisation ultime, nous on le vit depuis 30 ans dans les quartiers, donc on n'est pas spécialement choqué par cette loi dans les quartiers, puisque ça, c'est quasiment une routine pour nous, et il va falloir réfléchir ensemble à comment on reprend depuis le début, le temps est limité, je ne vais pas retracer l'histoire, mais comment on porte les luttes des quartiers concernant par exemple la fameuse loi de 2004 et l'interdiction du voile qui a imposé aux femmes de rester à la maison au lieu d'aller à travailler ou à l'école. On peut aussi parler du fait que les immigrés n'ont pas le droit de travailler dans le fonctionnariat alors que dans d'autres États d'Europe c'est possible. Il y a des tas de choses à voir ensemble pour que nous aussi on soit entendus dans les luttes actuelles et que nos intérêts soient défendus.
Oui, il y a Nadia, je crois.
Oui. Oui, bonjour. Nadia de la CGT. Oui, donc pour intervenir aussi donc sur les deux mots, par exemple, d'insécurité économique, moi je dirais que oui, dans les quartiers notamment, comme ça a été évoqué, mais pas que. Aujourd'hui, il y a de l'insécurité dans l'emploi. Beaucoup de personnes sont au chômage et pas que dans les quartiers. Et aujourd'hui, effectivement, ce qui cristallise le mouvement pour le retrait de la loi travail, c'est cette insécurité future si ce projet de loi passait. Donc là, sur cette loi travail, effectivement, il y a une certaine convergence qui s'est construite. Il manquerait d'aller plus loin parce que au-delà de ce retrait de la loi travail, ce que nous demandons, c'est effectivement ce retrait de la loi travail parce que finalement c'est une digue pour retourner, comme on le dit chez nous un peu, vers le 19e siècle où effectivement dans une boîte chacun devrait se battre alors que là il y a des droits égaux pour tous. Et ensuite, on demande aussi un autre code du travail du XXIe siècle. Donc ça fait un peu slogan, mais il faut lire ça au-delà de ce slogan. C'est plus une nouvelle société, envisager une nouvelle société, tout d'abord partage des gains de productivité, partage de la richesse pour les gens qui travaillent et aussi jusqu'au quartier, parce que... ce que peuvent vivre les uns et les autres à des niveaux différents, je veux dire, aujourd'hui, tout ça est dû à un détournement de la richesse produite et des choix de la société que l'on voudrait avoir. Ensuite, sur l'insécurité politique, moi, je ne la qualifierais pas ainsi parce que... Il y a effectivement un désengagement politique de la population, mais je pense qu'elle a été voulue. plus d'éveil des consciences pour justement participer à la vie dans la société ou dans son lieu de travail. Donc pour moi, le politique, mais très certainement les politiques aujourd'hui, créent cette situation quelque pour moi pour garder un peu le pouvoir. Et puisque là aussi, si on fait le lien avec ce qui se passe aujourd'hui sur la mobilisation de la loi travail, je veux dire, il y a quand même des mobilisations au départ citoyennes qui après nous ont poussé, nous les syndicats travailleurs, à s'engager. Mais il y a quand même une pétition au départ citoyenne qui est signée à plus d'1,3 million de personnes. Il faut savoir qu'au niveau européen, par exemple, lorsqu'il y a une pétition citoyenne d'1,000,000 de personnes, ça doit créer un débat au niveau des instances politiques. Aujourd'hui, ceci est totalement ignoré. Les sondages, bien ce qu'on en pense, il y a quand même 3/4 des Français qui sont contre ce projet de loi et on nous explique que c'est pour notre bien. Donc, insécurité politique, je pense que le débat est à continuer parce que il y a un désintéressement de la politique organisée. Mais il y a une oligarchie qui, finalement, séquestre justement les débats politiques.
Oui. Abou ?
Ouais. Oui. Bonjour tout le monde. Les gars qui les travaillent de Jamie Corone. On a donné de tout le monde bonjour. Nous, on a venu présenter avec des sans-papiers, là. Moi, Abou, des d'origine des Sénégalais, avec des Farid, avec des Habiba. Voilà, on a venu présenter pour les sans-papiers. Première chose, moi, c'est parler mon camp, là. Parce que moi, c'est entré de France depuis 2001. 2001, mars, septembre. J'ai entré ici, à Paris. Après la fin de un mois à Paris, j'ai venu ici à Grenoble. Ça fait un mois, deux mois, j'ai commencé des boulots à travaux publics. Heureusement, il n'y a pas de papiers. Là, c'était un papier de faux. Voilà, elle a travaillé 2001 jusqu'à 2005. 2005, 2006, des mois de février, voilà, il m'a envoyé 6 mois en Félix, voilà, à cause de son papier. Voilà, 2006, moi, j'ai quitté ici, parti à Paris. Il a fait là-bas un mois, deux mois. Il est venu à Marseille, quelques temps, il a tourné ici. Et pas moi, il a tourné encore à Paris. En fin de compte, 2006 et jusqu'à 2011, il n'y a pas de boulot. Après 2011, moi, j'ai retourné ici, à Grenoble. Après, pour le bas-viande, ça ne continue pas comme ça. Moi, c'était date papier, encore les papiers de faux, le continuer de travailler. 2012 jusqu'à 2014, moi, c'est travailler. Le travail, ce n'est pas travail noir, c'est en déclaré. Voilà, la fin de tous les impôts. Avec de mon maison, électricité, de l'eau, tous, la fait. Après 2013, voilà, il m'a donné des récépissés. Les premiers, les deuxièmes, les troisièmes. Les troisièmes, après, il a accordé pour les donner de moi, c'est un an. Les fins de compte, il est sorti mon camp. Il a trouvé, enfin, moi, c'était un faux papier. Voilà, il est légal parce qu'on a sorti, toi. Si on a trouvé, tu as fait une impunition avec des un souci. T'es où? Il a dit, moi, c'est dans la France. Il a dit, non, t'es pas dans la France. Moi, c'est quitté ici à Grenoble, à Paris, Marseille, Lyon, ici, on voit bien. Le fin de compte, c'est compte pas comme ça. Après, moi, c'est prendre mon papier encore, le travail. Voilà. Jusqu'à 2014, jusqu'à maintenant, 2014, c'est le mois d'octobre. Mon récépissé, il est expiré, il est fini. Voilà, jusqu'à maintenant. On n'a pas travaillé, ça fait 2 ans et 3 mois ou 2 ans et 4 mois maintenant.
Que vous n'avez plus de travail.
Voilà, il n'y a pas de boulot, il n'y a rien du tout. Bon, heureusement, c'est pour les impapiers. Voilà, il n'y a pas une dagande de France ou quelque chose. Non, non, seulement un papier. Voilà, jusqu'à maintenant, on n'a pas reçu de papier. Voilà, on est venu pour les régions, pour ça. Moi, avec des Farid, avec des Habiba, voilà, pour le, on a expliqué mon cas. C'est ça, on est venu, c'est ça le but. Merci.
Et du coup, j'ai une petite question à vous poser en tant que CGT Saint-Papier. Quel espace, enfin, quelle solidarité vous avez eue, vous, face à la situation que vous avez rencontrée et que vous rencontrez encore? Et quel espace de lutte vous avez rencontré? Parce que là, on est vraiment sur le débat de la convergence des luttes. Et est-ce qu'il y a eu convergence avec d'autres? Comment ça s'est passé pour vous?
Rebonjour, Farida. Je voulais juste préciser, donner plus de détails sur le cas de Abou. En fait, sur le cas de Abou, en fait, il rentre dans plusieurs critères de l'accord de Valls, mais il a été régularisé dans aucun cas. Il a plus de 10 ans ici, il a travaillé plusieurs années, il a fait des fiches de paye, mais il n'a pas obtenu ses papiers. Voilà.
Oui, bonjour, c'est Habiba. Je fais partie de la CGT Travailleurs sans papier, qui lutte avec Abou, avec Farida, on est des camarades, qui lutte pour les étrangers qui travaillent. Moi, je suis arrivée en France en 2007. Je travaille en tant qu'auxiliaire de vie à domicile depuis 6 ans. Et j'ai une fille qui est née ici, qui est scolarisée. Et je remplis tous les critères, même plus, de Manuel Valls. Alors, c'est un combat avec la préfecture depuis des années que ça dure. Et mon dernier OQTF, qui était le territoire français, c'est mois de mars dernier, là. Et il va expulser ma fille qui ne sait pas parler l'arabe, en fait, en Algérie. Ils disent qu'elle peut bien reprendre ses études alors qu'elle n'a jamais connu l'Algérie. Et puis, voilà, ça fait presque... Bientôt, je vais avoir 10 ans de présence sur le sol et ils ne veulent rien savoir. Voilà.
Oui, alors, c'est Kenja qui réintervient, mais cette fois avec sa casquette FUQP. J'aimerais intervenir, en fait, pour souligner un paradoxe. Le paradoxe, il est entre le constat que font Christelle et Abdel d'une difficulté des ponts entre les quartiers et le mouvement social, et puis, d'autre part, le fait que la situation nationale et internationale semble fonctionner en parallèle, c'est-à-dire qu'il y a une violence internationale avec un certain nombre de situations de guerre impérialiste, etc., avec la situation des migrants, avec tout ce qui est en train de marquer l'Europe en ce moment, et puis cette violence policière qui ne fait que monter. Et donc, sur ce potentiel de convergence, j'aimerais dire bon, que déjà, les militants, enfin nous, FUQP, et puis les militants des quartiers qui se sont malgré tout investis dans le mouvement social, ils l'ont fait moins sur le détail de la loi El Khomri que sur le fait que c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase de l'oppression, de la profitation, comme on dit aux Antilles. C'est-à-dire que depuis maintenant 20 ans, 30 ans, on s'en prend toujours eux-mêmes. On s'en prend toujours eux-mêmes et toujours au profit des mêmes. Et que cette loi El Khomri, eh ben, c'était vraiment comme un coup de massue d'achèvement de la bête, quoi. On en rajoutait la couche qui allait casser le mouvement, qui allait casser, etc. Donc il y a cette convergence de fait qui, au-delà des points de détail qui font que les quartiers ne sont pas spécialement mobilisés sur la loi El Khomri, ils sont mobilisés sur le fait qu'il y a une tendance toujours plus affirmée d'aller dans le sens du patronat, dans le sens des 1% qui possèdent la moitié des richesses du monde, et toujours, en fait, d'enferrer les populations les plus fragiles, dont la population des quartiers est au premier plan. Et puis, il y a le fait qu'il y a maintenant potentiellement la possibilité de faire comprendre aux gens que la situation actuelle, la violence actuelle que nous vivons, est liée également aux violences internationales, aux guerres impérialistes et à la situation faite aux migrants, et que cette espèce de frilosité nationaliste qui est en train de traverser tous les pays d'Europe, eh ben, avait une explication à la fois historique et internationale qui se retrouvait sur le territoire. Et voilà, donc il y a un paradoxe entre le manque d'implication des quartiers dans le mouvement social, mais on peut l'expliquer aisément, c'est ce qu'ont fait les camarades, et puis cette situation qui objectivement accroît les possibilités de convergence à la fois au niveau national et international. Voilà ce que je voulais souligner.
Merci. Là, on va du coup passer un petit reportage qu'on a fait à Nuit Debout, puisque c'était... Nuit Debout au tout départ, en fait. Et on voudrait revenir, du coup, sur
comment ça a évolué et les questions que ce reportage pose, notamment en termes de convergence des luttes. Donc c'est un petit reportage qui a à peu près plus d'un mois. Voilà.
Je suis Elsa, je suis étudiante en géographie. Je suis à la Nuit Debout depuis déjà bien 10 jours, enfin sans forcément dormir tous les soirs, mais pas mal dans l'animation du lieu. Il y a eu tout d'abord la mise en place du lieu. On s'est retrouvés dans les AG de ville à la bobine, donc tout au long de la mobilisation au mois de mars, et on a décidé d'organiser la Nuit Debout, donc après le 31, le 9 avril. Donc il a fallu un peu mettre en place, avoir des tentes, tout ce côté un peu logistique, avoir des toilettes, avoir de l'eau, avoir de l'électricité, mettre en place un peu un réseau. Et depuis, ça se construit. Il y a des gens qui y arrivent, des gens qui repartent. On essaye aussi de faire venir des gens à travers des ateliers, en fait. On se dit que c'est un moyen d'amener les gens à l'Assemblée Générale, c'est de les faire venir aussi dans des ateliers un peu différents, qui exposent un peu les alternatives, que ce soit l'atelier constituant qui marche très très bien tous les jours. L'idée, c'est de prendre des textes de la Constitution, de les réécrire, de les discuter et d'être vraiment force de proposition, en fait. Si quelqu'un a envie de faire quelque chose, ici il y a un espace. Il y a du monde toute la journée. Il y a deux rendez-vous surtout qui ont été notés et qui commencent à bien marcher. C'est à 18h, il y a une assemblée générale. Donc là, l'idée, c'est que dans cette assemblée générale, il y a deux temps, un temps d'intervention libre, en fait. Qui veut parler peut prendre la parole. Il y a des belles choses à chaque fois qui ressortent, des choses plus militantes, des choses plus personnelles, des témoignages, des lectures.
Avec quelques personnes, on se réunit ici pour monter un atelier d'écriture. Le but, c'est que chacun écrive ce qu'il a à dire, soit des témoignages, soit des manifs, soit des violences, des revendications, des idées, etc.
Il pourrait y avoir un maximum de personnes qui seraient fait la nuit ici, à veiller, à surveiller les gens, les tentes, les affaires, tout le monde.
Donc moi, je trouve qu'il peut vraiment faire débat, c'est la présence de personnes qui sont élues, donc des personnes qui ont du pouvoir administratif et politique au niveau local et plus largement, et qu'elles aient une place dans des commissions ou dans des assemblées. Pourquoi moi ça me pose question? Parce que en réalité, on peut dire oui, on est tous des citoyens, ce qui n'est pas vrai, parce que par exemple une personne qui a une carte de séjour provisoire, est-ce qu'elle est citoyen ici? Non. Et donc nous ne sommes pas tous des citoyens. Et en plus, nos paroles n'ont pas toutes la même valeur. C'est-à-dire qu'en fonction de notre niveau d'éducation, de si on est un homme ou une femme, notre parole ne va pas être écoutée de la même manière, ne va pas avoir la même valeur. Et que si on est un élu, et bien notre parole, elle a une valeur de ouf. On est écouté. D'ailleurs, qui parmi vous a pris la parole ici? Il y a eu un article couleur dans le Dauphiné Libéré d'en bas. Personne, en fait. Il n'y a que Piolle qui a eu ça. Donc, il y a bien un problème. En fait, Piolle et les élus, ils ont un gros Mac pour s'exprimer. Ils ont Gros News, ils ont le Dauphiné Libéré, ils ont tout. Nous, on a à peu près rien. Et parmi nous, il y a des gens qui ont moins que rien pour s'exprimer. Alors, la parole, elle a qu'à aller aux gens qui ne l'ont pas, plutôt que d'aller aux gens qui l'ont. Que les personnes qui sont des politiciens, leur objectif c'est d'être élus, c'est de gagner en pouvoir, et aussi parce qu'en fait on ne jouit pas tous de la même impunité. Il y a des gens qui se retrouvent en tôle, il y a des gens qui se retrouvent en garde à vue, il y a des gens qui se retrouvent au tribunal, ça n'arrivera pas aux élus. Parce qu'en fait ils auront 10 000 personnes derrière eux pour les protéger.
Après ce travail en collectif, on part en commission. C'est des commissions qui sont, pareil, pas fermées. S'il y a de nouvelles propositions de commission, c'est possible. Mais pour l'instant, il y a un peu un noyau sur une commission communication, animation, lieu de vie, action, convergence des luttes, logement, précarité. Donc là, c'est l'idée de travailler en plus petits groupes, parce qu'on se dit que c'est des thèmes que travailler à 200 en AG, c'est peut-être pas productif. Que travailler à 30 en discussion, ça permet d'avoir vraiment quelque chose de concret à proposer. Et donc là, après, on revient tous en plénière où on émet des propositions.
Qui vote pour demander durée indéterminée à la mairie pour sans négociation?
Qu'est-ce qu'on fait en cas d'expulsion de ce camp qui est en panne? Voilà. Et même en parler tout à l'heure. Ça me semble très important. Donc ceux qui veulent s'inscrire viennent me trouver et on voit comment on s'organise pour travailler sur une contre-offensive.
Et moi, je viens pour demander à l'ensemble qui s'assemblait pour voter aujourd'hui les commissions sur l'immigration. Il y a eu l'ouverture sur les circulations des capitaux dans tout le monde, mais on ferme les frontières pour les citoyens. On donne l'autorisation aux entreprises multinationales pour aller exploiter sur le territoire des gens, chasser les gens pour occuper leur territoire et exploiter les minerais. Je prends un cas d'exemple de mon pays d'origine, je viens de la République démocratique du Congo. L'Est du Congo est aujourd'hui exploité parce qu'il y a des minerais qui alimentent toutes les portables, les ordinateurs, les avions. Et pour exploiter ces minerais-là, il faut emporter la guerre, chasser les populations, créer les guerres, vendre des armes. Et aujourd'hui, avec le mouvement debout, on nous parle aujourd'hui qu'il y a les immigrants qui y arrivent. Et en Italie, il y a ça, il y a des réunions qui se font, des G8, toute la communauté internationale pour les immigrés. Mais on ne se demande pas l'origine de ces crises immigratoires. On est en train de chasser les gens dans les territoires pour implanter les multinationales, pour exploiter. Aujourd'hui, je viens pour vous demander que l'Assemblée vote une commission pour l'étude de l'origine des migrations et les multinationales dans le monde. Je vous remercie.
La commission Action, elle fait pas mal un travail de sensibilisation et d'information, donc elle fait des crieurs publics un peu dans le tram, elle lit des poésies révolutionnaires dans le tram, elle cherche à faire un peu des petites actions symboliques. Il y a eu l'action à McDonald's, ça c'était aussi porté par les étudiants, donc c'est bien aussi, ça converge aussi avec les étudiants qui sont mobilisés sur le campus. Il peut y avoir des actions un peu décalées pour interpeller les gens. Puis il y a un côté qui est moins décidé à en nager, qui est plus à discuter dans des petits groupes à côté, qui rentrent dans le mouvement contre la loi travail aussi, mais qui sont moins sur l'information, qui sont plus des actions un peu plus coup de poing. Il y a eu l'action péage gratuit jeudi dernier. Donc là, l'idée, c'était vraiment de parler aux gens, de leur dire qu'on était là et aussi de récolter de l'argent pour la caisse de solidarité sur les camarades qui ont été inculpés au 31 mars. Le fait de diviser en fait les gens en disant il y a des casseurs, il n'y a pas des casseurs, je pense que ça a juste un but de désolidariser les gens. Je comprends pas les gens qui cassent, mais déjà ils ont cassé que des banques. J'ai même vu par exemple des amis qui font pas du tout partie du mouvement qui disaient ça fait du bien quoi. À un moment de voir que ça passe de l'autre côté. L'idée c'est vraiment de faire converger les différents moyens d'action. Et chacun a un moyen d'action particulier. Il y en a ça va être des simples crieurs de rue, il y en a ça va être des AG, il y en a ça va être casser une vitrine d'une banque. Je vais pas le soutenir forcément celle-ci, mais je vais pas la condamner non plus quoi. Intéressant, notamment avec les AG, les commissions et les ateliers, c'est d'avoir une base de savoir pour permettre la discussion, pour permettre des actions. Et parce qu'en fait, il va falloir qu'on y aille, il va falloir qu'on ait des victoires, il va falloir que la loi travail soit retirée, qu'il y ait des liens au national. Et dans les AG, il y a en même temps des gens qui s'expriment de manière plus personnelle, des témoignages, des choses comme ça, et des gens qui disent bon, bah voilà, il faut de l'action, demain il y a ça, etc. Donc c'est vrai que c'est. Il n'y a pas un ordre du jour précis, mais en même temps, c'est peut-être bien aussi que ce soit. La parole, elle soit libre, parce que si les gens ils s'expriment, c'est qu'il y avait un besoin de s'exprimer, il y avait un besoin de se rassembler, de se retrouver et de ressentir juste des émotions communes.
Je m'appelle Itinoui et mon surnom c'est Sam. Je suis venu à Grenoble histoire de reprendre des études, passer un CAP j'ai entendu parler de ce qui se passait ici. Puis au début, je voulais faire la fête. Puis finalement, je me suis dit que ouais, ça en vaut la peine de s'investir pour ça. Ouais, c'est bien de voir du monde et on se mélange tous et on partage un peu nos expériences, et bonnes ou mauvaises d'ailleurs.
C'est quoi tes expériences à toi que tu viens partager ?
L'expérience de la rue. Et on vit dans un monde, malheureusement, où c'est bien difficile de s'en sortir. C'est pas important de comment on vient ici, le plus important c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est ici. Avec mes camarades SDF, on a fait une espèce de petit camp. Après, on est tous anarchistes, hein. L'anarchie c'est l'autoresponsabilité et... Et un truc aussi que je voudrais dire, c'est que l'anarchie, c'est aussi le fait de savoir que les gens, ils peuvent changer. Moi, je suis anarchiste et pacifiste. Je sais que partager ses convictions et discuter avec quelqu'un, on sait jamais, ça peut lui provoquer un déclic et peut-être qu'il faut voir par la suite. les idées, elles sont là, les possibles solutions, elles sont là aussi, les bras, elles sont là, les jambes, elles sont là, la tête, elle est là, mais le problème aussi, c'est les outils. Moi, sur le chantier, avec les gars, si on est tous motivés, on est tous présents, mais si on n'a pas d'outils, comment on peut construire une maison, quoi? C'est un peu aussi pour ça que je suis là, on cherche des solutions, en fait, malgré nos différentes classes sociales. Ici, nous avons des SDF, des étudiants, il y a des migrants qui passent, des bourges, bon je les aime pas, mais bon ils viennent quand même. Depuis quelques temps maintenant, on travaille plus pour vivre et on travaille pour survivre malheureusement. Et qu'on n'a pas accepté ça, qu'on vaut mieux que ça et que si y a une chance que les choses s'améliorent pour nous, ouais, pourquoi on se battrait pas pour ça? Je veux pas rendre des comptes à qui que ce soit et si je veux travailler, c'est vraiment pour vivre moi-même, quoi, que j'ai pas donné, si j'avais à travailler, à donner mes sous à une politique corrompue que je cautionnerai jamais de ma vie. Malheureusement, tout a un prix. Il faut voir aussi ce qu'on est prêt à mettre sur la table pour pouvoir faire marcher cet esprit de cohésion.
Il faut être ambitieux, mais pas trop exigeant. C'est-à-dire, faut être ambitieux sur tout ce qu'on veut, parce que autant de réfléchir sur le maximum de choses, sur le système en lui-même, sur nos rapports aux gens, sur nos rapports au travail, etc. Mais soyons pas trop exigeants non plus. On est là depuis une semaine, on a réussi à créer un lieu de vie, on a réussi à créer un petit groupe de gens, mais un gros groupe de gens. Il y a quand même une centaine de personnes à chaque AG. Enfin, il y a déjà une victoire d'avoir créé un lieu où les gens débattent, où les gens discutent, où les gens remettent en cause les choses et où on essaye de faire sur d'autres bases. Et il y a un mois, on a planté une tente place Victor Hugo le 9 mars. On dort dedans. Un mois et demi après, à la MC2, il faut aussi se rendre compte qu'il y a déjà plein de choses qui sont faites et qu'il y a encore plein de choses à construire. Je pense que ici, si les organisations ou si juste les simples personnes qui sont dans une organisation veulent venir, enfin tout le monde est le bienvenu ici. Et je pense que les organisations traditionnelles, elles ont un peu une veille politique au quotidien et ça pourrait nous aider beaucoup aussi. On a fait un débat sur la loi travail jeudi dernier, mais ça serait intéressant d'avoir un peu des liens avec des gens qui, par exemple, il y a un gros licenciement de 400 personnes juste à côté. Ça serait intéressant de faire du lien avec eux parce qu'à un moment, il faut qu'on arrive à créer des actions communes. Et même si ici, Nuit Debout, on sent que c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui n'a pas les mêmes règles que ce qui se faisait d'habitude et qui peut faire soit un peu peur, soit qui peut déstabiliser des organisations plus traditionnelles. On gagnera que si on est tous ensemble et que si on met toutes nos énergies ensemble. Et donc, bienvenue à la discussion. Après, il y a des gens qui viennent de partout, donc on n'a pas ni les mêmes idées, ni les mêmes opinions, ni les mêmes habitudes politiques. Et il faut aussi essayer de créer par rapport à ça. À un moment on en avait marre de certaines choses, on pensait que c'était pas possible de basculer et là on a l'impression que les choses peuvent changer et qu'on a enfin une place et qu'on a enfin un mot à dire et un truc à construire et je pense que c'est surtout ça aussi qu'il faut garder même si il y a toute la suite à construire quoi.
FM, à Grenoble, numéro 1 sur le hip-hop, groove, funk.
Et merci d'être toujours à l'écoute ou de nous retrouver sur News FM 101.2, toujours pour l'émission Micro-Ondes. On est en présence de tous nos invités pour continuer ce débat sur la convergence des luttes, l'interlutte. Donc nos invités de différentes organisations, syndicats, collectifs militants. Donc on vient d'écouter un petit montage sur Nuit Debout. Donc un montage avec des sons qui ont été pris il y a à peu près un mois. Et suite à ça, on a entendu une chanson d'une artiste qui s'appelle Santi Gold. Le morceau s'appelait Disparate Youth, ce qui veut dire jeunesse disparate, et qui parle de comment les jeunes ne veulent pas lâcher leurs aspirations, qui veulent être ambitieux et avoir des vies qui valent la peine d'être vécues et de se battre pour elles. Alors pour revenir sur le débat On bloque tout, enfin On bloque tout, on va parler de On bloque tout, parce qu'il y a eu un inter... Pendant la musique, on a un peu discuté. Du coup, ce témoignage-là sur Nuit Debout, justement, il montre qu'en fait, il y avait quand même énormément de prises de parole sur des sujets très, très, très variés, avec chacun pensant que c'est important de partir de là. Et il y a notamment des appels aux syndicats qui ont été faits et des appels aux organisations et aux militants déjà là. Et du coup, la question qu'on voulait poser d'abord, c'était qu'est-ce qui s'est passé ? Dans ses liens avec les syndicats. Et puis, il a émergé aussi On bloque tout, donc on voulait essayer de parler de tout ça. Voilà.
Alors, du coup, j'y retourne. Donc, Christelle, Nuit Debout. Du coup, moi, j'ai pris un mandat sur la convergence des luttes, notamment au niveau des syndicats, depuis le 25 avril. Et ça fait un mois et demi qu'on y est. Et du coup, moi, quand j'ai commencé à travailler pour l'émission d'aujourd'hui, j'avais appelé ça « Grandeur et limite de l'interlutte ». C'est-à-dire que je trouve qu'au bout d'un mois et demi, par rapport à l'émission qu'on a fait le 1er mai, il y a quand même du chemin de fait et on mesure ce qui est possible et ce qui bloque. Du coup, nous, au niveau de Nuit Debout, on a fait des ponts avec les syndicats. On a travaillé avec trois syndicats, la CGT, Sud Solidaire et la CNT. On a organisé des journées sur Nuit Debout, notamment le 28 avril, où ces trois syndicats étaient présents pour venir défendre des choses, représenter le travail qu'ils font, leur point de vue, pourquoi ils sont engagés là-dessus. Après, on a essayé de travailler ensemble sur les journées de mobilisation, sur qu'est-ce qu'on peut inventer ensemble ou pas. On était super embêtés parce qu'on ne peut pas être invité à une intersyndicale. En tant que mouvement citoyen, on ne peut pas être invité sur une intersyndicale. Du coup, à moins que les syndicales décident, ce qui n'était pas le cas. Donc, du coup, en tout cas, nous, on n'a jamais été invités sur des intersyndicales. Et on ne savait plus, au bout d'un moment, comment travailler avec les syndicats, puisqu'on n'avait pas de temps ni de lieu pour construire du commun. Et à un moment donné, le collectif On bloque tout est venu, en tout cas pour moi, combler ce trou et ce fossé qui existait concrètement entre le travail des intersyndicales et les citoyens qui n'avaient pas d'espace où travailler avec les syndicats. Donc ça fait maintenant 15 jours que le collectif On bloque tout s'est un peu officialisé. On avait essayé sur Nuit Debout, on avait fait plusieurs commissions, interlutes, blocages, et là aussi on s'était heurté à certains dogmes et à d'autres camarades qui voulaient pas être à l'intérieur de Nuit Debout, du coup ça les perturbait trop parce qu'ils n'adhéraient pas à tout à Nuit Debout. C'est pas facile en fait de faire de la convergence des luttes parce que t'es un peu au milieu de plein de chemins et en fait t'as du mal à faire que tout le monde soit satisfait. Donc au niveau du collectif On bloque tout maintenant, c'est Sud et Solidaire qui accueillent dans leurs locaux, donc c'est quand même eux qui ont pris le relais de créer cette convergence des luttes. L'ensemble des syndicats sont invités, ainsi que les groupes en lutte. Ce qui fait que tu peux avoir aussi bien les syndicats que le FUQP, la CIP 38, des gens de Nuit Debout, etc. Et l'objectif était de construire des actions de perturbation, de blocage économique par rapport à ce qu'on combat. Parce que c'est aussi poser la question de... est-ce qu'on va faire reculer un État en sortant se promener de la gare à la préfecture une à deux fois par semaine? Donc ça va être difficile aujourd'hui parce qu'il y a plein de choses à dire et plein de constats et plein de choses qui ont été mises en place. En tout cas, ce collectif, depuis deux semaines, il met en place des blocages et des barrages effectifs et des perturbations de l'ordre économique et capitaliste. Et à l'intérieur de ce collectif, il y a toutes sortes de gens. Voilà.
Et du coup, Mathilde, précaire solidaire, donc je voulais réagir un peu après le reportage et après ce que tu dis, Christelle, parce que donc précaire solidaire qui fait partie aussi du collectif On Bloque Tout. Moi, je voulais voir faire un peu des constats, en fait, parce que j'ai eu l'impression qu'on a, bon, on voit bien qu'il y a une envie de se rassembler, qu'il y a des espaces qui ont été créés. Simplement, comme on voit, c'est une question de ras-le-bol général, de, parce qu'on dit la loi travail et son monde, on n'en veut plus, on n'en veut pas. Et pour Nuit Debout, en fait, le problème, c'est en fait, on a eu du mal au départ, en tant que syndicat, j'ai l'impression, en tant qu'individu, on y allait, mais en tant que syndicat, j'ai l'impression qu'on a eu du mal à trouver notre place, parce que ça se disait, donc, mouvement citoyen, individuel, il y a eu, enfin, d'individus, plutôt. Et qu'en gros, certaines personnes voilà, avaient une certaine réticence à ce que des syndicats viennent pour ne pas être récupérés, pour que Nuit Debout ne vienne pas Nuit Debout CGT ou Nuit Debout Solidaire ou voilà. Et donc ça a été une grosse discussion, enfin en tout cas au sein de Solidaire, une grosse discussion de pourquoi il faut qu'on y aille, quelle est notre place. Il ne faut pas qu'on prenne le pas sur les prises de parole, etc. Il faut qu'on y aille qu'on s'investisse. Parce que c'est aussi un autre espace. Il y a le syndicat, il y a Nuit Debout. Il y a aussi On Bloque Tout, je trouve aussi, qui est intéressant. Parce qu'on arrive à se coordonner. On se rend compte qu'il y a pas mal de collectifs, pas mal d'espaces. Et la coordination, c'est ça en fait. Je pense que la coordination et le fait qu'il y ait plein de luttes différentes qui rentrent en compte. Entre autres, on a beaucoup parlé aussi à Nuit Debout du droit au logement. Donc ça vient aussi compléter voilà, ce ras-le-bol général qu'il faut structurer et qui est hyper difficile parce qu'on est chacun dans notre groupe, chacun dans notre collectif. Et tout à l'heure, on parlait des quartiers populaires. C'est un peu l'utopie des syndicats d'entrer dans les quartiers populaires et de faire une grosse, comment dire, une espèce de gros mouvement où toutes les classes seraient ensemble. Et c'est sûr, moi aussi, ça me fait rêver personnellement. Mais c'est vrai que, voilà, comment on arrive à passer des revendications à de l'action commune.
Alors, je vole le micro à ma camarade de Sud. Donc, Guillaume de la CNT. Alors, à l'écoute de ce reportage et des interventions précédentes de mes camarades, c'est vrai qu'on peut se demander dans quelle mesure cette construction de la puissance fantasmatique avec les classes exploitées, le monde du travail, les quartiers populaires, les milieux les plus précarisés de la société peut advenir un de ces jours. C'est vrai que le schéma sur lequel nous, syndicalistes, on est restés, c'est effectivement le schéma de la grève qui part d'un constat économique et social, c'est que nous produisons toutes les richesses et que si on arrête de produire quoi que ce soit et qu'on se reste les bras croisés, alors l'économie s'arrête. Et si l'économie s'arrête, les gens qui profitent du système économique, principalement les gens qui ont le plus d'argent et qui ne savent rien faire par eux-mêmes, ceux-là commencent à avoir peur, et quand ils ont peur, ils reculent et ils nous lâchent des droits. Le problème, c'est qu'on a affaire aujourd'hui dans la société, dans les sociétés occidentales, et dans la société française en particulier, à une grande classe qu'on appelle la classe moyenne, qui est en fait une classe un peu médiane, c'est-à-dire qui fait le lien entre les bourgeois et les gens qui sont vraiment les plus en bas de l'échelle sociale. Et cette classe moyenne, elle sert à domestiquer les gens, par son action culturelle, sociale, économique. Et puis elle a été aussi elle-même domestiquée. C'est pour ça que le syndicalisme, le monde du travail, etc., tout ça, ça parle plus aux gens qui sont les plus précarisés, qui sont les plus ostracisés, c'est-à-dire les quartiers populaires, c'est-à-dire les sans-papiers, c'est-à-dire les gens qui sont vraiment quelque part les cobayes du nouveau monde ultra précaire qui se profile à l'horizon. Donc la grande convergence des luttes, elle est difficile à trouver parce que tous ces gens qui auraient intérêt à renverser les structures, eh ben en fait ils vivent pas les mêmes réalités. La réalité d'un travailleur, d'une travailleuse dans une entreprise avec un CDI, c'est une réalité difficile, c'est une réalité d'aliénation, c'est une réalité d'exploitation, mais c'est aussi une réalité personnelle. Les gens, ils se vivent comme étant plutôt bien intégrés, avec des satisfactions, avec un rôle social. Et effectivement, c'est pas forcément le cas des gens pour lesquels les choses sont vraiment beaucoup plus abruptes en termes d'exploitation, en termes de répression politique, policière, etc. Donc, on bloque tout, ça voulait dire ça, c'est qu'en fait, avant, pour tout bloquer, il suffisait de rester les bras croisés, il suffisait de faire la grève. On s'est aperçu que depuis que le syndicalisme n'arrive plus à organiser les gens qui sont les plus précaires et qui sont dans le travail précaire, le blocage de l'économie, il passe pas que par la grève, il passe aussi par ce qu'on appelle le blocage des flux. Et ça vient de là, on bloque tout. Ça veut dire, en gros, il s'agit d'empêcher la production, mais aussi les échanges. Et c'est un appel de syndicalistes, on bloque tout. Mais c'est des syndicalistes qui sont bien conscients que le syndicat, il ne se suffit pas à lui-même et que le syndicat, il ne peut pas faire la révolution ou voire même des réformes un petit peu d'ampleur sans l'appui des gens qui ont été écartés du syndicalisme parce qu'ils ont été écartés du monde du travail, parce qu'ils ont été écartés de l'organisation des structures d'autodéfense populaire qui étaient les partis ou les organisations révolutionnaires ou populaires et les syndicats. Donc la difficulté de la convergence des luttes, c'est la construction de la puissance avec des gens qui ont des réalités économiques et sociales différentes, avec des gens qui ont des traditions différentes et avec des gens qui se sont fait domestiquer, c'est-à-dire la classe moyenne, et qui ont domestiqué, c'est-à-dire qui ont essayé de contrôler les classes les plus basses, parce que la classe moyenne, elle fait quoi? C'est les profs qui expliquent aux gens en dessous d'eux, c'est-à-dire aux élèves qui sont issus des quartiers les plus populaires, que s'ils n'arrivent pas à bosser, c'est de leur faute parce qu'ils étaient mauvais à l'école. C'est les éducateurs, c'est la petite bourgeoisie intellectuelle. Bon, et tous ces gens, eh ben, en fait, ils ont objectivement quelque part quelque chose à gagner à être ensemble, mais on leur a désappris à être ensemble. Et on a tout ça à rattraper. C'est sûr que le mouvement social, c'est le moment de le faire, mais ça ne se fait pas même en 3 mois. Donc c'est ça qui est difficile de mon point de vue.
Alors, on a Abdel, Cynthia, non? Non, Abdel.
Merci Guillaume, parce que ça me permet de rebondir sur l'idée qu'avait évoquée également la camarade solidaire, que le rêve des syndicats actuellement, ce serait de rallier les quartiers populaires à la cause. C'est pas une utopie, c'est quelque chose de possible, mais effectivement, ça se fait pas en claquant des doigts. 30 ans d'islamophobie, de discrimination, de précarisation, de discrimination, de, je disais donc, étatique et populaire, avec la montée du Front National, comme on le voit actuellement dans les scores, fait que nos quartiers sont un peu chaos en ce moment, sont démotivés de manière importante. Par ailleurs, dans nos quartiers, il y a toujours eu des tissus associatifs très denses, avec des choses qui se passent en interne vraiment chouettes. Et on assiste depuis plusieurs mandats de la mairie à une quasi-extinction des budgets. Le pompon est donné à nos amis les Verts qui ont quasiment coupé tous les budgets. Et donc nos quartiers sont asphyxiés et se meurent de par ce tissu associatif. Ça fait que nous, les militants sur le terrain, on a du mal à trouver des relais, à porter cette parole qui permettrait de repolitiser, de reconscientiser, d'émanciper, comme disait Guillaume, parce que c'est vrai que ça fait 30 ans d'oubli, on ne rattrape pas ça comme ça. Donc le calendrier ne sera pas le même, ça c'est certain, il ne faut pas se leurrer. Donc il y a aussi eu en parallèle des rendez-vous qui ont été ratés de par nos amis les syndicats. J'en avais déjà vu que la dernière fois les Chibani qui ont lutté seuls contre la SNCF, et j'en parle maintenant, c'est parce que leur procès... le second procès va pas tarder à arriver et ça serait bien. J'en reparlerai à ce moment-là qu'il y ait des gestes qui soient faits. Donc, peut-être effectivement.
Pour préciser qu'on en avait parlé dans Micro-ondes déjà, mais là c'est bien le procès en appel.
Oui.
Parce que la SNCF avait perdu
qui a décidé à faire appel de la décision. Comme quoi, ils ne sont pas prêts à lâcher ce qu'ils doivent aux gens, quoi.
Tout à fait. Et donc, la SACF gagne du temps parce qu'ils ont fait appel le dernier jour avant la date limite. Donc voilà, donc effectivement, rien n'est perdu. Comme disait aussi tout à l'heure dans le film, on a entendu que Nuit Debout a été un espace pour construire ensemble, chercher des solutions. Nous, les militants des quartiers, on y va nombreux parce que aussi on veut construire. On a des relais aussi auprès de Nuit Debout parce que les gens sont à l'écoute. Ils sont prêts à participer à nos luttes aussi de manière ponctuelle. Mais de manière globale, il y a des choses à faire, à reconstruire et ça va prendre un petit peu de temps.
Nadia, tu voulais prendre la parole ?
Oui, donc Nadia, CGT. Par rapport déjà à ce que tu dis sur les classes moyennes, Guillaume, je suis pas forcément d'accord comme tu l'amènes, en fait. Parce que pour moi, aujourd'hui, il y a deux classes, la classe ouvrière et la classe du capital. Et classe moyenne, pour moi, c'est des gens qui bossent. Si c'était si simple, toute la classe ouvrière, ce que tu qualifierais d'ouvrière, tu vois, les personnes qui gagnent moins d'argent, seraient toutes dans la rue, ce qui est loin d'être le cas, quoi. Donc, effectivement, on est façonné par la société, par l'éducation, il y a des choses à améliorer, on nous apprend la guerre, on nous apprend pas l'histoire sociale. Donc je pense qu'effectivement, ce qu'on peut appeler l'éducation populaire, ça manque, mais je pense à tous les niveaux. Et d'opposer classe moyenne aux classes ouvrières, je pense que c'est pas positif pour justement converger dans la lutte, parce que finalement, on fait croire aux classes moyennes, tu parlais des profs, mais moi par exemple, moi je suis ingénieur, et on nous fait croire qu'on est une classe à part, et moi je me considère comme la classe ouvrière. Effectivement, j'ai une qualif, je gagne mieux. Mais je veux dire, à un moment donné, on n'a pas les mêmes difficultés, mais on a des positions sur la société. L'exploitation, elle est différente, mais elle existe aussi. Donc je pense que effectivement, il faut faire attention là-dessus. Après, pour revenir par rapport au film, au reportage plutôt, sur Nuit Debout, on bloque tout ça. Effectivement, les syndicats en tant qu'organisation ne sont pas présentes parce que dès le départ, je pense qu'il y a une volonté aussi du mouvement de ne pas être récupéré, ça a été dit. Ensuite, il y a pas mal de militants, par exemple CGT, qui ont été présents, même avec leur étiquette. Mais en tant qu'organisation, on est venu souvent quand on nous a invités pour débattre, que ce soit à Grenoble ou dans d'autres villes. Pour justement faire part de nos expériences, de nos propositions, essayer de construire ensemble. Après, moi, je pose pas, parce que pour la convergence, est-ce que c'est forcément... parce que même l'intersyndicale, il y a plusieurs organisations, on a chacune nos convictions, nos modes d'action, de réflexion, et pourtant, ben, on arrive quand même à travailler ensemble à certains moments. Donc je pense qu'avec un mouvement citoyen comme avec d'autres, parce que ça c'est arrivé récemment par rapport aux réfugiés, on a fait une initiative à Échirolles, etc. Régulièrement, je pense qu'on arrive à converger, à trouver des moments où on peut s'exprimer ensemble. Effectivement, le moment de Nuit Debout est très récent. Et dans l'organisation de la CGT, il y a eu un débat dans notre orga, savoir quelle position on devait avoir. Et majoritairement, en fait, c'était de soutenir cette action, parce que pour une fois, ça fait plusieurs années même, et on s'est senti encore plus seul depuis Hollande. Je vous le rappelle, loi de sécurisation de l'emploi, qu'on peut appeler sécurisation de licenciement, pacte de responsabilité, il y a eu diverses lois comme ça, où on s'est retrouvé très peu, toujours les mêmes, à être dans la rue, et là, pour une fois, depuis très longtemps, il y a l'espoir qui remplace un peu la résignation. Donc c'est très positif, en plus, ce sont beaucoup de jeunes. Donc notre volonté, ça n'a pas été de mépriser ce mouvement, bien au contraire, c'est justement que ce mouvement citoyen, que ces jeunes, justement s'éveillent à eux-mêmes, quitte à porter notre soutien comme on a pu le faire régulièrement quand on a été sollicité. Donc le mouvement a tout notre soutien. Sur le collectif Bloc Tout, effectivement, ça part, comme je l'explique, on a des intersyndicales, donc effectivement la CGT, il y a que la semaine dernière, officiellement, est venue jusque-là, mais parce qu'effectivement on a un fonctionnement démocratique. On peut y aller en tant que militant, il y en a quelques-uns qui sont présents, mais en tant qu'orga, on le décide tous ensemble. Donc on a ce moyen de fonctionner, qui des fois peut prendre du temps par rapport à certaines personnes, mais au moins c'est un garant d'avoir vraiment tout le monde derrière vous, et pas juste quelques individus, même sur leur présence, voilà. Donc par contre, sur on bloque tout, nous on le conçoit comment? C'est bloquer tout, effectivement. J'en reviens à la grève, comme ce que tu l'as évoqué, mais ça s'oppose pas, voilà. Donc on me demande de raccourcir, je vais passer la parole. Voilà.
Oui, donc Mathilde, précaire solidaire. Voilà, donc moi je voulais juste rappeler, parce que ça me tient à cœur, que les premières personnes qui seront touchées par la loi travail, c'est les femmes et les personnes racisées. On parle beaucoup de communication, qu'on n'a pas de médias, que en gros on n'est pas relayé par les médias dominants. Je pense que déjà individuellement il y a un travail à faire au niveau de la communication avec les personnes de notre entourage, de faire un travail de communication avec les personnes. Parce qu'on connaît tous et toutes quelqu'un qui est en situation de précarité et qui se sent un peu paumé avec ces histoires de loi travail, qui comprend pas trop ce que font les syndicats, ce que c'est que Nuit Debout, et ils sont concernés, mais en fait ils savent pas, prendre le pas de se dire je me mobilise. On se rend pas compte parce qu'on est entre militants, mais c'est énorme comme pour des personnes qui ont toujours été un peu résignées sur c'est pas moi de décider parce que j'ai voté pour quelqu'un qui s'occupera de ça. C'est extrêmement difficile de se mobiliser.
Alors Mathilde, tu parlais des femmes dans ce mouvement, et il y a un reportage qu'on voulait passer, qu'on va pas avoir le temps de passer, parce que même si on a une prolongation d'une heure, on manque toujours de temps. Voilà, c'est le classique à micro-ondes. Donc c'est un montage sur les manifs qui ont eu lieu, et qui se clôturait par un morceau de Noir Désir qu'on entend très régulièrement en manif. Et du coup, moi, ça m'interroge un peu, parce qu'on sait que le chanteur de Noir Désir a tué sa femme lors de violences conjugales. On sait que tous les trois jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Et du coup, sur un moment de convergence des luttes, ça me semble important de voir que personne n'est oublié. Et pour rester sur ce thème, on va écouter un morceau qui s'appelle Born in Flames, qui est issu en fait d'un film du même nom. C'est un film américain qui date des années 80 et qui montre une société post-révolutionnaire. Il y a eu la révolution communiste qui a eu lieu aux États-Unis, mais qui sait qui reste sur le carreau? Les femmes, les lesbiennes, et particulièrement les femmes et lesbiennes noires. Du coup, elles décident de s'organiser et elles choisissent la radio comme un de leurs outils de lutte et l'action directe. Donc on va écouter ce morceau, Born in Flames, des Red Crayola.
Vous êtes toujours sur News FM pour l'émission Micro-ondes. On retrouve nos invités. On vient d'écouter Born in Flames et Red Crayola. Et on donne la parole à Cynthia.
Bonjour, Cynthia pour le DAL. Je vais essayer de parler du coup de convergence en essayant d'être construite. Mais ça va être vachement difficile parce que je trouve que c'est quelque chose, un sujet aussi complexe que peut l'être l'humain. Ce que je voulais essayer de dire, c'est que il y a des tas de situations différentes. On le voit quand on essaie de faire des AG, des mal logés et tout ça avec le DAL. Il y a des tas de situations différentes, des tas de personnes avec des problématiques spécifiques et tout. Et en fait, c'est hyper difficile de les faire se rencontrer, de les faire s'entendre, parce que il y a toujours ce bon vieux truc qui marche à tous les niveaux, que ce soit, quelle que soit la lutte, le bon vieux truc du diviser pour mieux régner. Et en fait, j'ai l'impression que ce qui est compliqué, enfin ce qui rend la chose compliquée de faire de la convergence, c'est que les gens se sont coupés les uns des autres et ne voient plus le truc en commun pour lequel ils peuvent se battre, ils et elles peuvent se battre, à savoir on peut dire que c'est le capitalisme ou plein d'autres choses, mais en fait, il y a cette division qui a été instaurée, le diviser pour mieux régner, ça a instauré quelque chose aussi qui fait que les gens ont des comportements de domination, ce genre de choses. Et là, je trouve que ça rejoint ce qui se disait juste avant par rapport à Noir Désir et à Bertrand Cantat et tout ce genre de choses, et aux luttes, aux questions féministes. C'est qu'en fait, on se dit, on peut pas lutter contre quelque chose, l'ennemi commun, genre le capitalisme, c'est le souverain ennemi commun, il faut se battre contre. Et quitte à ne pas prendre en compte des questions comme le féminisme, ce genre de choses, ou les questions de l'immigration ou du validisme ou plein d'autres choses. Et on ne les prend pas en compte parce qu'on risque de se disperser dans ce genre de lutte et d'oublier de se battre contre le capitalisme, par exemple. Mais je trouve que le capitalisme, c'est quelque chose qui a instauré ce genre de domination. Essayer de dire ça, c'est peut-être dire un peu que c'est la poule qui vient avant l'œuf ou vice versa. C'est un peu, peut-être un peu compliqué. Mais je me perds. Mais du coup, si on ne prend pas en compte ce genre de choses, on lutte contre le capitalisme, mais on ne lutte pas contre les choses qui l'ont engendré ou alors qui l'ont engendré. Et on risque simplement de retomber dans quelque chose de différent, mais avec toujours des dominations. Et si on veut faire de la convergence, il faut pas avoir peur de prendre en compte ce genre de questions. C'est pas parce que ça rend la question plus complexe, le message plus complexe, que ça veut dire que c'est impossible qu'il soit entendu et qu'il soit réel. Et c'est la seule façon qu'on a c'est la seule chance qu'on a d'arriver à construire quelque chose après qui soit vraiment différent du capitalisme et exempt de toute domination. Je ne sais pas si c'est très construit, si vous avez compris quelque chose.
Si, c'est très construit, c'est très clair. Et ça nous fait penser à une phrase, mais qui est, elle, par contre, pas claire, mais du coup, à une phrase du collectif Manoukian. Je vais la dire comme ça. D'abord, je vais l'expliquer. Parce que, en fait, qui dit qu'en fait, l'auto-organisation de chacune des organisations qui sont touchées spécifiquement par des dominations. Garantit en fait la prise en compte des intérêts de chacune de ces organisations. C'est-à-dire que, et du coup c'est un truc qu'on retrouve et une pensée qu'on retrouve régulièrement dans le collectif Manoukian, qui est justement ce que tu viens de dire, c'est pas contradictoire, et pour pas se perdre non plus vers un truc de convergence qui nierait notre propre spécificité et là où on est attaqué, c'est que pour faire de la convergence, il faut aussi une multitude de groupes d'auto-organisation sur des dominations spécifiques et qui puissent être assez forts pour pouvoir les porter aussi dans les espaces de convergence. Voilà. La provenance du collectif Manoukian, on me dit, le collectif Manoukian, ça va être... j'ai pas tous les éléments sur le collectif Manoukian. Je sais que dedans, il y a Saïd Bouamama, qui a plein de gens, quoi. Il y a notamment les gens qui travaillent sur le labo de recherche de sociologie à Lille, qui s'appelle Phare pour l'égalité. Voilà. C'est tout. Ah, il y a d'autres prises de parole. Réaction, il y avait...
Moi, j'aimerais réagir sur cette proposition donc, du collectif Manoukian. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Cynthia. Et je serai assez bref, en fait. Je laisserai Madiba, Nelson Mandela répondre. Il dit, ce qui se fait pour nous, sans nous, se fait contre nous. Et Voilà. Et je pense que c'est ceux qui vivent les réalités qui sont à même d'en parler, de proposer. Ensuite, justement, ben, la convergence, elle est faite pour trouver les proximités et pour trouver les passerelles avec ceux qui réfléchissent, qui apportent leur réflexion, leur force, etc., mais qui ne peuvent pas se mettre totalement à la place de ceux qui vivent les oppressions. Et des fois, dire on va se battre contre le capitalisme ou bien refuser la complexité pour aller dans des binarités prolétariat, domination capitaliste, c'est amener des résistances hors sol, des mouvements hors sol et qui ne vont rien changer à la fin, quoi. Et donc, il faut vraiment, à mon avis, construire l'autonomie des organisations. Et c'est des organisations autonomes et responsables qui peuvent créer la convergence, pas l'inverse.
Abdel, tu avais...
Moi, je voulais rebondir sur ce que Mathilde, précaire solidaire, disait tout à l'heure, sur les premières impactées par cette loi travail, à savoir les femmes et les racisés, en sachant que les femmes racisées ont le jackpot. En disant ça, on déresponsabilise un petit peu les autres pans de la société, à savoir, par exemple, parmi nos auditeurs, certains doivent avoir une super entreprise, super gentille, et qui, même si la loi travail passait, pourraient se dire « je ne l'applique pas parce que moi, je suis gentil ». Face à cette entreprise super gentille, il y a une entreprise B qui, elle, va se dire « moi, je vais passer aux 40 heures de travail sans augmenter le salaire ». Je vais moduler les congés sur 3 ans pour ajuster ma production à mes besoins et plafonner les salaires à 10% pour les heures sup. Et ben, mécaniquement, l'entreprise super gentille, lorsqu'elle va avoir un concurrent agressif sur le marché, va devoir s'ajuster, s'adapter ou mourir. Donc, tout le monde est impacté par cette loi-là. Il n'y a pas que les femmes et les racisés. Bien sûr, on le sera à des stades différents. Mais c'est une escalade et un nivellement par le bas sans fin. Et il faut vraiment tous se mobiliser, toutes et tous se mobiliser pour ça.
Christelle ?
Alors moi, je suis pas d'accord avec... c'est pas que je suis pas d'accord avec le collectif Manoukian, c'est qu'en fait, moi justement, je trouve que le XXIe siècle, c'est l'expression totale des singularités, des identités, qu'il y a des... tas de groupes spécifiques qui luttent contre leurs oppressions et qui travaillent leurs oppressions et qu'il n'y a plus personne en fait pour venir se faire chier à sortir de soi-même et à être ensemble avec les autres. Donc moi en tout cas, le 21e siècle, je le vis comme ça. Et même à l'intérieur de Nuit Debout et de la convergence des luttes, je retrouve ces limites-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a beau avoir des objectifs communs, c'est tellement important que notre expression personnelle soit respectée, que notre individu soit pris en compte, qu'on n'arrive même plus à faire commun. Donc, moi, en tout cas, je sais que j'ai cette colère-là depuis toujours, que je n'ai pas du tout envie d'être envoyée à tout ce que je n'ai pas choisi, qui est censé me déterminer, être une femme blanche, de classe populaire qui vire vers les classes moyennes. Enfin, toutes ces choses-là, j'ai toujours lutté avec des gens super différents, de plein de groupes différents, et je n'ai pas l'impression qu'on se nie en allant vers les autres. Mais à un moment donné, moi, ce qui me... Justement, pour moi... Si la convergence des luttes, elle est difficile en ce moment, c'est parce que même quand on dit qu'on converge, on continue de reproduire les mêmes choses. On est enfermé dans nos représentations et dans les représentations de l'autre. Et à un moment donné, c'est là où on bute. C'est là où on bute. C'est-à-dire, moi, ça fait un mois et demi, par exemple, que concrètement, j'essaie de me rouler par terre avec des syndicats ou avec des gens pour construire des actions communes. Et inventer des choses comme ça, et ben même quand il faut monter en bus à une manifestation nationale, et ben il y a des bus, ils sont pas pour nous, ils sont que pour certaines familles. Et c'est un point de détail comme c'est ça, hein. C'est un point de détail. Mais c'est pareil à l'intérieur de Nuit Debout, où il y a des soirs, tu te retrouves avec plus de commissions que de gens pour les faire vivre, parce que tout le monde veut faire exister son truc. Et moi, je pense que si on n'est pas capable à un moment de s'unir, de combattre et de pousser fort, la réalité c'est qu'à la fin du mois de juin, c'est les congés payés, que l'été t'arrives jamais à faire grandir des luttes et à tenir des grèves, etc. Et moi, ma question principale, c'est comment on va pousser encore plus fort jusqu'à la fin du mois pour qu'à un moment il lâche. Parce que s'il lâche pas, on est juste mort.
Mmh. Tu veux réagir ?
Moi aussi, mais... Moi, je pense qu'il ne faut pas confondre deux choses. C'est comment mon individualité, je vais la mettre en avant. Et là, en effet, on tombe bien dans l'individualisme que le néolibéralisme y crée. Bon, c'est beaucoup de mots en isme, je fais souvent ça, désolée. Mais que là, moi, j'ai l'impression que quand on parle d'autodétermination, c'est autre chose. C'est des gens qui se mettent ensemble parce qu'ils subissent les mêmes choses. Comme là, en fait, les gens de Nuit Debout, ils se mettent ensemble parce qu'ils subissent la loi travail et ce monde. Après, cette loi travail, c'est vraiment un truc dont on veut se débarrasser, c'est clair. Ça ne va pas arranger les choses, mais en fait, il faut voir que c'est déjà la merde, passez-moi ce mot, pour beaucoup de gens. Et que, en fait, et ces personnes-là, eh ben, c'est aussi parce qu'on a cassé leur capacité d'organisation, eh ben, que c'est beaucoup plus dur pour elles de réagir. Et du coup, moi, je trouve ça compliqué de se dire, là, il faut qu'on s'unisse pour vraiment foutre par terre ce loi travail qui nous menace. Oui, certes, mais en fait, il faut voir tous les autres trucs qui menacent des gens et qui ne sont peut-être pas nous ou qui ne sont peut-être pas la majorité des personnes de Nuit Debout. Et ça, je pense qu'on ne peut pas le faire s'il y a des collectifs forts qui se montent avec des gens qui portent une parole qui n'est pas une parole qu'on entend habituellement et qui sont touchés par des choses spécifiques. Parce que sinon, personne d'autre le fait.
Et qui sont des paroles collectives et pas de l'individuel et de l'individualisme. C'est de la reconnaissance collective d'un vécu commun et du coup qui permet d'avoir la force de se mobiliser. Quoi.
Et moi, c'est un peu ce qu'on attendait que vous disiez peut-être quand on a cité Fassin. Pour moi, c'est aussi ce truc de faut pas se leurrer, en fait. Là, les petits étudiants de classe moyenne blancs qui se prennent la violence des flics, ok, c'est super dur, sauf qu'après, ils vont retourner en vacances chez papa, maman, ça va être fini. Pour les jeunes des quartiers, cette violence-là, ils choisissent pas quand ça commence et ça finit, en fait. Eux, ils peuvent pas rentrer à la maison, ils sont tranquilles. Et ça, faut vraiment prendre ce genre de choses-là en compte. Sinon, bah ouais, le lien avec les quartiers populaires, il est pas prêt de se faire, et les gens des quartiers populaires, ils auront bien raison de pas le faire. Voilà, désolée pour cette tirade, mais il nous reste encore 10 minutes et je pense qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole.
Guillaume ?
Effectivement, moi je crois que là on touche du doigt quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que quand je parle de classe moyenne, moi je suis contre cette notion, tout comme l'a dit ma camarade de la CGT, c'est qu'elle, pour moi c'est une notion qui a été fabriquée. Mais ça recouvre aussi une réalité sociologique, parce que les gens se pensent comme étant la classe moyenne, que sur un point de vue, on va dire, marxiste ou économique, les gens fassent, y a des gens qui tirent le profit du système et d'autres qui le font fonctionner. Ça s'appelle la lutte de classe, il y a deux classes, etc. Bon, la classe moyenne, c'est une réalité sociologique plus qu'économique, c'est-à-dire que c'est des gens qui se pensent comme étant de classe moyenne, et c'est surtout c'est des gens qui ont à un moment intégré les désirs, le mode de vie de la bourgeoisie et qui ne se sentent pas, se sentent, comment dire, capables de s'en sortir en dehors des gens les plus exploités. Et c'est des gens qui ont revendiqué aussi le pouvoir politique et qui ont fini par l'obtenir. C'est pourquoi les petits jeunes, comme disait ma camarade, qui effectivement vont rentrer chez papa, maman après s'être pris la violence des flics, et qui vivent pendant un bref printemps ce que peuvent vivre tout un tas de gens quand ils sont confrontés à la face la plus abrupte de l'État, c'est-à-dire la répression policière tous les jours dans les quartiers ou dans d'autres situations. Bon, ben, en fait, c'est là où il y a une convergence, c'est que ces petits jeunes-là et leurs parents et leur milieu, ils ont accès aux médias, ils ont accès à la parole publique, et c'est là qu'il y a quelque chose à faire, c'est-à-dire... En fait, plutôt que de dire, en gros, bah, vous voyez bien ce qui vous arrive, nous c'est pire, etc., il faut dire effectivement qu'il faut utiliser cet accès et se dire que de toute façon, les gens qui se bougent, c'est des gens qui se solidarisent avec, en dehors de leur position sociale, parce qu'il y a de la position sociale, c'est clair, c'est-à-dire que moi, si j'ai un peu écharpé les profs tout à l'heure, c'est parce que moi je suis un prof, hein, et je sais très bien comment sont mes collègues. Bon. Et si c'est ma position dans la société, mais il y a mon positionnement. Le positionnement, c'est pas pareil. C'est avec qui je suis solidaire. Quel est mon imaginaire? Qu'est-ce que je veux construire? Voilà. Et que ce soit Marx, Bakounine ou les grands révolutionnaires ou les gens qui ont fait avancer les choses, c'était pas des prolétaires. souvent, hein. Les gens qui ont théorisé, les gens sur lesquels on s'appuie sur le plan intellectuel, les Fassin, c'est pas un prolétaire, hein. Bon, donc, mais c'est des gens qui choisissent leur positionnement. Et la convergence des luttes, c'est une question de positionnement, c'est pas seulement une question de position. Voilà. Et donc, la question de savoir, est-ce qu'il faut qu'il y ait des gens qui passent par une forme de réaffirmation de soi-même par des collectifs qu'on appelle spécifiques, pour après mieux réintégrer les questions sociales, la question sociale en général. Moi, j'en suis persuadé. Black is beautiful, c'est les Black Panthers qui disent, on va commencer par être fiers de ce qu'on est. Girls are strong, c'est les féministes qui vont commencer par dire, on est fiers de ce qu'on est. On construit pas la lutte sur quelque chose qui nous aliène, on construit sa lutte et sa force sur la puissance qu'on se donne. Et donc c'est à ça que ça sert les collectifs d'auto-organisation. Et c'est pour ça que, pour moi, ça me paraît important, cette articulation.
Kenja ?
Juste pour préciser, la question des classes moyennes, là, pour moi en tout cas, c'est la question des classes intermédiaires sans lesquelles la domination ne pourrait pas fonctionner. Et la question du partage des privilèges, il y a des gens au sein de la classe théorique idéologique dite prolétariat qui font le choix d'être les soutiens de la domination et d'être les chiens de garde de la domination. La question des classes moyennes, ça se pose aussi dans ces termes-là. Et ceux qui nient qu'ils retirent des privilèges de leur position sociale pour se définir comme prolétaire ou comme etc., ils évitent justement de poser le point que vient d'avancer Guillaume, qui est de faire un choix. Et lorsqu'on a fait ce choix, il est vis-à-vis d'un soutien réel, concret, à la base, par rapport aux oppressions que vivent les gens sur le terrain, quoi. Et il n'est pas à nier sa position en termes de privilèges.
Merci beaucoup. On arrive au terme de ce débat, qui était encore une fois très riche. Donc, merci d'être venu. Et on arrive aussi au terme de l'émission. Voilà, puisqu'on doit rendre l'antenne, Eric va la reprendre après nous. Donc, on se retrouve à la rentrée, on espère. Vous pourrez trouver des informations sur le Facebook de Micro-Ondes et aussi donc sur le site Le Tamis, dont on vous a parlé tout à l'heure, qui veut bien héberger nos émissions et les reportages qu'on fera pendant l'été, y compris ceux qu'on n'a pas eu le temps de passer aujourd'hui. Donc, on va se quitter en musique. Kendo, tu veux rajouter quelque chose?
Juste un petit merci à l'équipe pour tout ce travail.
Merci.
Vraiment bravo.
Bravo. Ouais.
Je voudrais simplement que si vous trouvez le temps long d'ici septembre, ce sera d'ailleurs le 4 septembre à midi en principe, vous pouvez aussi réécouter toutes nos émissions précédentes contre le racisme et les frontières, soit sur le site du Tamis, alors le site du Tamis, oui voilà, www.le-tamis-info. Et soit sur le site de Radio News FM. Alors là, il faut cliquer sur émission, parce que souvent, il y en a qui ne trouvent pas. Alors, il faut cliquer sur émission, une fois que vous êtes bien sûr sur le site. Ensuite, podcast. Ensuite, émission thématique. Et ensuite, tout en bas, micro-ondes. Et donc, vous pouvez retrouver toutes nos émissions, qui sont, de notre avis général, intéressantes. Voilà. Et on vous souhaite un bon été, où on ne lâche rien. Malgré les vacances.
Et on va écouter un dernier petit morceau, à défaut d'écouter On lâche rien. Un morceau choisi par Abdel, qui s'appelle Appelle-moi camarade, du MAP et Kenny Arcana.
Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond ou nomade, si tu penses que le monde est crade, appelle-moi camarade. Si comme moi tu penses qu'il faut se radicaliser contre l'ordre établi, refuser d'obtempérer si t'en as marre de ressembler à un mouton, si t'as l'audace de Rosa Parks, c'est compris Franz Fanon. Appelle-moi camarade si tu sais pas rester dans le rang, si t'as la flamme, l'espoir et le couteau entre les dents, si t'enrages quand t'inflictes des visages, si t'étouffes comme un dollar dans ta cage. Appelle-moi camarade si t'as capté les mécanismes, les rouages du système, comment ils neutralisent, comment ils manipulent, désinforment et nous divisent. Reste lucide parce qu'il est l'heure qu'on se mobilise. Si tu je pense qu'on est du même côté de la barrière, du même côté du mur, du côté lanceur de pierre, du côté des larmes, du côté de la misère, du côté palestinien. Tu peux m'appeler mon frère. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade.
si tu penses que mon écrade, appelle ma camarade. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond ou nomade. Si tu penses que mon écrade, appelle ma camarade.
Appelle ma camarade, parce que mes larmes sont les tiennes sont les miennes. Bref, nos peines sont les mêmes, on s'émène pour éviter l'abattoir. Ouais, je me démerde, merde, sans perdre de vue l'étoile qui m'a dit pas toi. Je manie la plume comme Marcos, la rage d'une cassosse, prête à lâcher le mic s'il faut mourir pour la cause. Je rappe la force, je rappe l'espoir, je rappe la fratrie, issue d'une génération endormie par la matrice. Enfant de l'insomnie, bordé par le macadam, percé par le vague à l'âme. Appelle-moi camarade, cause d'un monde bien malade, où tout le monde s'en bat la rage. Braque les haut-parleurs avec des rimes dans lesquelles parle la rage. Anti-norme, impossible encarté, autonome comme les anards à cran, comme les chefs de quartier. C'est l'heure de s'unir car l'urgence nous rattrape, dans le meilleur ou dans le pire, on est ensemble camarades.
Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre. Vagabond ou nomade, si tu penses que mon écrade, appelle ma camarade. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre. Vagabond ou nomade, si tu penses que mon écrade, appelle ma camarade.
Ils ont enfermé nos rêves, braqué nos idéaux, ils ont cadenassé nos révoltes, ils ont fait taire ceux qui parlaient trop. Ils ont jugé que nos colombes obscurcissaient leur ciel, ils les ont tout butés de leur sang, ils ont fait leur miel. Silence on tue, silence on assassine, on élimine tous ces illuminés qui voudraient changer le scénario du film. Leurs dessins, on les connaît par cœur, je veux pas te refaire le tableau. Ce monde est hardcore, patrie, pétrole et pouvoir, leur chef-d'œuvre du grand art, y'a qu'à regarder pour voir. On est mort sans savoir, comme asphyxié, en perte d'oxygène, comme enchaîné à la destinée de cité où la bourse règne. J'étouffe, j'aimerais tellement changer. Mais au fond de moi, je sens bien que c'est ce putain d'air qu'il nous faut changer. C'est une simple question de survie, bien plus qu'une croisade. Armée de l'ombre en embuscade, pas moi, camarade.
Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre. Vagabond ou nomade, si tu penses que mon écrade, appelle ma camarade. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre. Vagabond ou nomade, si tu penses que mon écrade, appelle ma camarade. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre. Vagabond ou nomade, si tu penses que mon écrade, appelle ma camarade. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre. Vagabond ou nomade, si tu penses que mon écrade, appelle ma camarade.